Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Espace Mendès France pour cette journée d'études. Alors, deux, trois petits mots préliminaires avant de donner quelques réflexions sur la médiation scientifique. Donc, vous êtes ici au sein de l'Espace Mendès France, dans la salle qui nous permet, année après année, d'organiser les débats avec nos concitoyens. Donc, les rendez-vous de 18h30 et de 20h30 sont connus des Poitevins maintenant, largement. Mais régulièrement, en journée, nous organisons ici des temps de réflexion qui permettent de lever les témoignages, ce qu'on appelle la société civile, hein, les acteurs de la société civile, en confrontation avec celles et ceux qui, comme on le dit souvent, fabriquent de la connaissance à travers la recherche et des réflexions. Alors, cette salle est un lieu éminemment pluri ou transdisciplinaire. C'est une chose importante. Et cette salle est aussi le lieu de rendez-vous des chercheurs de Poitiers et d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je remercie dans un premier temps Thierry Ouette, qui est un ami de la maison, avec qui, depuis très longtemps, on explore l'ensemble du périmètre qui, alors avec la casquette INSERM, le thème général santé, mais aussi toutes les relations qu'il y a avec les questions qui préoccupent nos concitoyens. Donc avec Thierry, on a appris à travailler ensemble pour donner à ce thème de la santé une approche qui permet de relier avec d'autres considérations. Quand moi je suis arrivé à l'Espace Mendès France je dirais pas quand, mais c'était il y a un petit moment, un peu plus de 25 ans, avec un contrat de 6 mois, je le raconte à chaque fois, parce que ça prouve que les sciences méritent d'être largement explorées, donc ça prend un petit peu de temps. On traitait l'eau, la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, les sciences de la Terre, et puis rouler pendant 6 mois, on ne faisait que ça. Et petit à petit, on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait rendre compte des évolutions qu'en faisant venir des acteurs issus à la fois de disciplines, mais aussi d'institutions différentes. Alors le dialogue n'est pas forcément évident, mais quand on est projeté vers un horizon qui consiste à essayer de trouver les mots pour dire les choses et surtout essayer de mobiliser les acteurs de notre territoire et nos concitoyens, on est vite arrivé dans cette maison à un tiers de confiance qui permet de parler des sujets, y compris les sujets les plus sensibles. Nombre de débats ont eu lieu dans cette maison sur la génétique, sur les OGM, sur le nucléaire, etc. Je vous rappelle que le CCSTI de Grenoble s'est fait exploser son exposition sur les nanotechnologies. Et nous avons organisé dans cette salle pendant un an et demi le seul débat national qui n'a pas donné lieu, même si les débats étaient parfois un peu raides, qui n'a pas donné lieu à de violences physiques. Hein, si je dis ça, d'ailleurs, mes camarades de Grenoble ont fini avec leur centre de culture scientifique brûlé. Hein, il est fermé, il a été brûlé. Donc ça en dit long sur, en fait, ce qui paraît comme classique, je ne veux pas dire anodin, hein, dans la place de cette connaissance scientifique au sein de nos sociétés. On voit bien qu'on est... Et puis avec la période actuelle de ces derniers mois, on voit bien qu'on est sur des périodes où tout est sensible. On est sur des terrains où il y a de l'inflammation, je ne sais pas comment on va dire. Bref, le dialogue permet d'apaiser tout ça, à condition bien sûr que ces rencontres soient faites dans un bon esprit. Alors si je dis tout ça, c'est qu'on a petit à petit construit ici une fabrique de ce dialogue dans cette salle, en mettant en scène, bien sûr, des horizons différents en termes scientifiques, mais surtout en ayant comme préoccupation de créer les conditions d'une mise en perspective. C'est la raison pour laquelle il existe ici un pôle d'histoire des sciences connu et reconnu. C'est Héloïse Morel, ici présente, que vous connaissez, qui a pris le flambeau voici 2 ans maintenant, à la suite d'Anne Bonnefoy, que vous avez tous côtoyé dans la maison. Et on a l'intention non seulement de renforcer cette dimension historique, mais également de l'ancrer encore plus, si c'est possible, dans nos problèmes de société, dans des configurations comme celle d'aujourd'hui, où vous allez ensemble nous aider à créer les conditions d'une réflexion sur ces thématiques hyper transverses et nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Nombre de réunions comme celle d'aujourd'hui ont permis à l'espace Mendès France de reconfigurer sa manière de présenter à nos concitoyens un certain nombre de choses. L'école de l'ADN est née dans cette maison, voici une quinzaine d'années, un peu dans cet esprit. Les premiers débats sur le développement durable en France ont eu lieu dans cette salle en 1993. C'est un mot qui n'était employé par absolument personne à l'époque, par l'émissaire de Madame Brundtland, qui était venue ici, Bertrand Schneider, ancien secrétaire général du Conseil de Rome, du Club de Rome, pardon. Voilà, bref, donc pour dire que ces temps, ici, dans cette salle, pour nous, sont absolument essentiels. Et puis, pour terminer, vous dire que quand on fabrique des objets de médiation, on a besoin aussi du dialogue avec vous, chercheurs, et c'est ce qu'on fait avec celles et ceux qui sont dans la salle. Chercheurs, parce que la dimension de la recherche fondamentale, on n'emploie plus trop ce terme, mais moi, il me paraît aller dans le sens d'une bonne compréhension, permet aussi de connecter avec la question de l'application. C'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, parce qu'il se passe des choses qui nous permettent aussi de comprendre dans quelles conditions ça s'applique. Puis moi, je voulais saluer la présence de Laurent Lucot ici. D'abord parce que c'est son thème de prédilection, c'est une réflexion. Puis deuxièmement, il est élu de Grand Poitiers, puisque vous savez que l'espace Mendès France est passé dans les compétences de l'agglomération, donc de Grand Poitiers, et on entend dans les temps à venir accentuer cette mise en relation. Demain, il y a le service de l'eau, de l'assainissement et de la mobilité qui seront dans la maison pour réfléchir à une présentation à nos concitoyens à l'occasion de la fête de la science, mais dans l'ensemble des 40 communes. Donc on voit que tout ça a besoin d'une diffusion, mais cette diffusion, elle doit encore une fois s'appuyer sur des choses construites, documentées, et où les interrogations sont faites avec et grâce au dialogue avec vous dans les institutions de recherche, etc. Donc le contrat de projet est à région, les temps forts qu'on a organisés avec Thierry, les amis de l'école de l'ADN, ne font que conforter ce que je pense par rapport à la question de l'eau. Et je finis en disant que votre présence nous aide aussi à légitimer, y compris des mises en perspective, parfois un peu, problématiques, mais pas loin. Dans cette salle a eu lieu il y a 3 ans, vous allez sur YouTube, une matinée caméra avec une dizaine de témoins. Et le thème de la journée, c'était à quelques jours de la COP, c'était il y a 4 ans, quelques jours de la COP 21. Thème de la journée, c'était climat, 2 points, tout le monde s'en fout, point d'interrogation. Et on a vu 2 témoignages de profs de collège et de lycée, passionnés d'environnement, de développement durable, d'écosystèmes, etc., et qui nous ont fait part, avec beaucoup de hargne d'ailleurs, et puis de regrets, et c'est paradoxal avec ce qui se passe en ce moment, d'une distance avec leurs élèves qui, entre guillemets, texto, vous regardez sur YouTube, bouffent de l'environnement depuis qu'ils sont en maternelle. Alors, ces paradoxes, il faut les explorer, parce qu'on se rend compte que... À l'époque d'une démocratie cognitive, il faut bien regarder comment se passe l'éducation, parce qu'on participe beaucoup à l'éducation à travers la culture scientifique, dans les établissements scolaires, et la naissance d'une citoyenneté. Et on se rend compte que les choses ne sont pas contradictoires, mais en même temps, si on en reste à des approches académiques de projets de société ou de questions de société, on risque de rater quelques rendez-vous. Et les enseignants de ce collège, celui de Lusignan en l'occurrence, et de ce lycée, celui de Barbezieux en l'occurrence, mettaient en exergue le fait qu'ils avaient besoin de tiers-lieux ou de lieux tiers, comme l'espace Mendès France, pour les aider à bâtir quelque chose qui relève d'une pédagogie différente. Le débat s'est poursuivi avec eux, d'ailleurs, depuis, et on va le recommencer à la rentrée de septembre, parce que les enseignants ont besoin là-dessus d'un appui et d'une aide. Alors, je ne dis pas qu'on a les éléments, hein, mais ça nous permet, à travers nos opérations, de présenter les choses un petit peu différemment. Et si j'en veux pour preuve ce qu'on vient de faire depuis 4 ans en termes d'exposition et en termes d'animation, on a réussi à regagner sur ce thème-là des publics, mais ça ne va pas de soi. Donc, encore une fois, hein, les débats sont importants. Voilà, donc je voulais redire encore une fois à quel point l'espace Mendès France tient à adosser son action, ses programmes, sa diffusion sur des choses qui sont sérieusement documentées. Pas un couplet sur les fake news, allez sur YouTube, regardez ce qui se passe en ce moment sur la culture scientifique, il y a à boire et à manger si j'ose dire, et on a besoin vraiment de vos interventions pour nourrir nos réflexions de médiateurs. Voilà, donc en tout cas une bonne journée de travaux, tout est enregistré, nous on se sert de vos dires pour en discuter avec l'équipe et celles et ceux qui nous aident à faire les choses ultérieurement. Thierry, je vais te passer la parole.
Merci beaucoup, Olivier, de me passer effectivement la parole. Et surtout, merci beaucoup de nous accueillir pour un sujet qui est quand même de cette importance. Alors, c'est le troisième épisode d'un triptyque qu'on avait démarré il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, avec Anne d'ailleurs. Et donc, Héloïse a pris le relais sur un thème qui est vraiment un thème sociétal. Là, manifestement, on est quand même sur l'eau, un bien comme un autre, avec un point d'interrogation, c'est un point majeur. Si on reprend effectivement l'histoire de l'eau et qu'on remonte même jusqu'à la Genèse, finalement, l'homme est responsable de l'eau depuis le début, au sens vraiment responsable. Hein, ça, c'est vraiment une donnée qui est majeure. Alors l'eau, ça fait partie en fait finalement des enjeux, mais aussi des tragédies, des sources de conflits, des sources d'intérêts. Et c'est avec les pêcheries, avec l'air, avec la forêt, c'est un ensemble aujourd'hui qui est absolument vital et dont une prise de conscience sociétale qui est aujourd'hui majeure et qui aujourd'hui d'ailleurs concerne finalement un mouvement bien jeune qui est un peu parallèle à un autre mouvement qui fait aussi pas mal la une en ce moment avec les Gilets jaunes, mais qui est vraiment celui d'une jeunesse consacrée à des problèmes aujourd'hui qui sont des problèmes majeurs de sa vie future. Et l'eau exactement au cœur de ce souci. Alors l'eau, finalement, il y a plusieurs façons. Si on veut éviter une tragédie, il y a pas mal de choses à prendre en compte. D'abord, c'est améliorer sa distribution, éviter d'en perdre. C'est aussi faire attention à ce qui est la pression économique. On dépense des fois beaucoup d'eau pour gagner un point de PNB, ce qui nous pose quand même pas mal de soucis. On veut décarboner la production, mais je pense qu'il va falloir aussi la déshydrater, sinon on va effectivement y perdre un certain nombre de choses. Et tous ces points sont majeurs. Et peut-être aussi l'utilisation de l'eau grise, de cette eau recyclée. On est quand même dans des pays, l'Europe là-dessus est assez champion, et ça amène quand même des questions, où on utilise finalement de l'eau potable aussi bien pour, je dirais, des lieux publics, mais également pour laver les rues. Donc ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes aussi par rapport à ça. Il y a certainement là quand même pas mal d'efforts qui devront être envisagés. Donc tout ça, ce sont certainement des points sur lesquels on peut encore évoluer. L'eau, c'est aussi un enjeu économique. Et je revoyais l'autre jour un film qui concernait effectivement la crise économique. Et cette crise économique de 2008, avec les subprimes, avait permis à certains économistes de génie, il faut le dire, de pressentir cette crise. Et finalement, de mettre beaucoup d'argent dans des placements en jouant contre les placements immobiliers. Ils ont fait 400 fois leurs produits, leurs profits, 400% de profit pour leur société, c'est énorme. Et je vous le donne en mille, la question, quand ils ont ramassé cet argent, que les subprimes sont passés, que la crise a été déclenchée, sur quoi ils ont placé leurs fonds ? Sur les grandes compagnies de gestion de l'eau. Ils ont été sur un autre secteur qui est devenu un secteur économique, et là ça m'amène à une question, cette question, l'eau est un bien comme un autre. Alors l'eau est un bien commun, est un bien public, ou c'est une marchandise ? On est vraiment sur une grande question à ce niveau-là, puisque l'eau aujourd'hui, c'est 660 millions de personnes, et un état emblématique qui est le Niger, où l'accès à l'eau est une misère. 660 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau à disposition, comme nous on peut en ouvrant simplement le robinet. Et quand même 2 milliards qui n'ont accès à l'eau, mais pas à une eau forcément consommable. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur un ensemble de 2,5 milliards de personnes qui sont finalement concernées par l'eau, sa qualité, son accès, le droit d'avoir effectivement, de pouvoir disposer de cette eau. Ce qui amène des questions au niveau de la société. Est-ce qu'on doit aujourd'hui la considérer comme un bien public accessible à tous, puisque c'est quand même un vecteur de santé, hein. C'est un vecteur qui nous permet de grandir, de vivre, d'assurer nos fonctions vitales. Et si on ne boit pas d'eau, eh bien on ne fera pas marcher nos reins, on va effectivement s'intoxiquer, on aura quelques problèmes. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être aujourd'hui bien compris, bien entendu. Ou est-ce que c'est un bien marchand qu'on va laisser devenir une marchandise et à ce moment-là peut-être même devenir un objet de conflit. Un point d'eau probablement, et ça l'est déjà pour certains pays, peut être un objet de conflit. Garder un point d'eau, c'est contrôler effectivement l'accès à l'eau, c'est priver des populations, ce sont des enjeux qui deviennent rapidement des enjeux politiques. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est un vecteur, mais qui est aussi un vecteur de maladie, parce que les 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, entre guillemets, potable, eh bien ce sont des eaux qui sont pas du tout consommables, qui sont sources de pathologies. Et vous avez effectivement certaines rivières africaines qui sont magnifiques à prendre en photo, mais qui sont des vecteurs de parasitoses effroyables et qui fabriquent effectivement des milliers d'aveugles. Donc ça, ce sont des vraies questions aujourd'hui sur l'eau. L'eau, effectivement, est-il un bien commun comme un autre? Oui, certainement. Et comment devons-nous le traiter? Et là, on rejoint vraiment un vrai débat sociétal. Et je voulais remercier aujourd'hui tous les participants qui sont effectivement là pour cette journée. On a là vraiment effectivement des gens qui vont pouvoir nous aider à répondre à cette question et à suivre ce fil rouge tout au long de la journée. Donc merci encore à tous ceux qui nous ont aidés, à Héloïse, à Yann qui est là, à préparer donc effectivement cette journée. Et je me rejoins à Didier pour vous dire qu'on est vraiment ravis effectivement que vous soyez là pour ces journées d'échange. Merci.
Héloïse, tu avais des choses à dire sur le déroulé de la journée ou on peut y aller?
Vous présentez la table ronde de la matinée, donc qui est plutôt sur les questions d'aménagement de la ressource en eau. Et on commence avec une intervention de Frédéric Graber, qui est historien des sciences, chargé de recherche au CNRS, membre du groupe de recherche en histoire environnementale, et qui a travaillé notamment sur l'aménagement de Paris en eau au 19e. Ensuite, nous aurons une communication de Laurent Moulin, qui est ingénieur en gestion de l'eau et biologiste aux eaux de Paris. Puis nous partirons sur les enjeux plus politiques liés à l'eau avec Laurent Lucot, élu Grand Poitiers, donc vice-président de la commission locale de l'eau Sage-Clin. Et nous excusons donc Alain Piéchon qui ne peut être là, mais Vincent Blu qui est chef de service eau au département de la Vienne présentera le schéma départemental de l'eau. Merci. Donc vous avez tous une quinzaine, vingtaine de minutes, et après, comme ça, on laisse le temps, vingtaine de minutes, ouais. Pour avoir le temps des échanges entre vous et avec la salle. Merci.
Bien, bonjour. Alors, moi, je vais du coup accélérer énormément. J'avais prévu plus d'une demi-heure, là, à peu près, donc ça va être un peu plus rapide. Je vais vous parler d'un projet... D'accord. D'un projet en cours donc sur les financements des systèmes d'eau en France au 19e siècle. J'ai réalisé que la ville sur laquelle je travaillais depuis très longtemps, Paris, était en fait très très exceptionnelle, et donc je diversifie un petit peu pour avoir une image un peu plus réaliste. Alors le 19e siècle, quand on le regarde généralement, est pour nous un siècle assez exotique en matière de système d'eau. Il y a toute une série d'évidences par rapport à ce que serait l'eau aujourd'hui qui sont complètement battues en brèche quand on regarde les systèmes d'eau du 19e. Typiquement, l'idée que les services d'eau seraient des monopoles naturels, pas du tout évident pour le 19e siècle. Vous avez des services concurrents dans toutes sortes de villes. Que l'eau soit ou non une marchandise, là aussi, vous avez des débats assez importants. Que ce soit un service commercial qui doit être facturé au volume, là encore pas du tout évident, vous avez énormément, enfin même les modes de facturation principaux se font pas au volume au 19e siècle. Et puis vous avez cette idée très tenace, contre laquelle justement j'essaye de travailler dans ce projet, que la gestion privée aurait été dominante en France. Alors, ces systèmes sont mal connus, principalement parce qu'on n'a pas de données statistiques avant la fin du 19e siècle, d'où l'enquête que j'essaye de faire sur l'ensemble des préfectures. J'essaye du coup de lutter contre un topos assez installé qui serait d'une spécificité, d'une exceptionnalité française dans l'histoire de l'eau. Si vous comprenez des histoires à très très grands pas, vous avez généralement cette idée qu'au 19e siècle, ça commence avec des systèmes concessionnaires, que vous avez dans la plupart des pays occidentaux une crise dans les années 1880, ce qu'on appelle la municipalisation. Généralement, dans la plupart des pays, ça passe en gestion municipale au tournant, donc à la fin du 19e siècle. Et puis, ça se maintient largement au 20e siècle jusqu'aux années 1980 avec donc la reprivatisation dans un certain nombre de pays. La France serait, hein, c'est ça ce qu'on peut lire dans pas mal de petits topos économiques, sociologiques, etc., une exception, elle aurait toujours été en gestion privée. Alors, en fait, ce qui se dégage de l'enquête que je... en gestion privée, en concession, si vous voulez. La concession aurait été le régime dominant du XIXe siècle et il le serait resté jusqu'au XXe siècle, d'où, si vous voulez, la spécificité française qui est aussi le fait qu'elle est ces grandes compagnies de l'eau qui sont des leaders au niveau mondial. Ils sont leaders au niveau mondial, c'est comme ça que continue le topos en général, précisément parce que c'est le seul pays du monde dans lequel il y avait, au XXe siècle, une gestion privée à cette échelle-là. Alors en fait, ce qui se dégage de cette étude, j'ai une vingtaine de villes pour l'instant sur lesquelles j'ai travaillé, donc je ne vais pas encore donner des conclusions totalement définitives, mais on peut commencer à voir se dégager un certain nombre de tendances, c'est que la proportion pour le XIXe siècle est assez stable en réalité, autour de 2/3 de gestion municipale et 1/3 de gestion privée, avec un net renforcement à partir de la période de la municipalisation, c'est-à-dire après 1880, aboutissant en fait pour les grandes villes à un passage presque complet en municipal au début du XXe siècle. En 1920, 95% des préfectures françaises sont en gestion municipale. Donc s'il y a une spécificité française, hein, il faut expliquer beaucoup plus, ce ne sera pas mon objet aujourd'hui, mais j'aurai un jour à revenir ici pour vous expliquer comment ça s'est fait, qu'à partir des années 30, on a au contraire, par une politique publique volontaire, favorisé le développement du secteur privé dans ce domaine. Alors, j'entre par un angle qui est assez particulier et qui est cette idée, là encore, centrale en économie de l'eau, qui est que l'eau ne peut pas être gratuite et que l'eau a un coût, que c'est un objet économique. Alors, c'est beaucoup moins évident pour le XIXe siècle, évidemment, d'abord parce que vous avez toute une série d'alternatives brutes, c'est-à-dire la plupart des acteurs peuvent puiser de l'eau dans toutes sortes de ressources directes qui ne changent pas énormément, en fait, la nature de l'eau qu'ils ont à disposition, étant donné que vous avez peu de systèmes de traitement jusqu'à la toute fin du XIXe siècle dans la plupart des villes. Hein. On peut y revenir si vous voulez, il y a un certain nombre de traitements, mais c'est des traitements assez rudimentaires et simples. Vous avez un discours qui se développe au cours du siècle sur l'idée que certes, il faut aller au puits, à la fontaine, à la rivière, etc., mais que ça a un coût, ça, que ça prend sur votre journée de travail, etc. C'est quelque chose qui est assez marginal quand même jusqu'à la fin du siècle. Cette idée que, si vous voulez, le fait que la corvée de l'eau, en quelque sorte, a un coût. Par ailleurs, le XIXe siècle est aussi un siècle de grande domesticité, c'est-à-dire si vous êtes un personnage vaguement aisé, vous avez des domestiques, et du coup, ça déplace, si vous voulez, cette question de la corvée à nouveau de manière assez diverse. C'est vrai aussi en ville, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, ou dans la discussion, la question des domestiques change beaucoup de problématiques. Alors, sur la question de l'objet commercial, la question, là, est totalement différente au XIXe siècle, puisque, pour le coup, le système, presque tous les systèmes d'eau du XIXe siècle sont centrés sur l'idée d'une eau gratuite, sur l'idée que, pour une part plus ou moins importante, l'eau, justement, ne doit pas être commerciale. Ça, c'est quelque chose, donc, qui va être au centre de mon propos aujourd'hui, c'est ce lien entre la gestion et ce qui est afférent, la propriété de ces systèmes d'eau, et la place qui est accordée à la commercialisation. Alors, si on prend de manière synthétique l'ensemble des systèmes d'eau en France au XIXe siècle, on distingue deux notions qui n'ont pas du tout le même sens qu'elles ont pour nous aujourd'hui. On distingue le service privé, qui est, à proprement parler, ce que nous appellerions le service aujourd'hui, c'est-à-dire l'eau dans la maison, payante par abonnement. C'est le service minoritaire au XIXe siècle. Dans la plus grande majorité des villes, c'est très, très minoritaire, ce service privé. Le service public, comme on l'appelle au XIXe siècle, eh bien, c'est l'eau dans la rue, c'est l'eau aux bornes fontaines, et cette eau est pas toujours, mais presque toujours, gratuite. Et généralement, elle a toutes sortes d'autres fonctions publiques, comme le lavage des rues, la lutte contre l'incendie, etc. C'est une spécificité française, ça, et c'est, si vous voulez, une notion politique. C'est-à-dire, quand vous l'analysez au niveau des débats dans les conseils municipaux, vous voyez très clairement que c'est un impératif moral et politique pour les villes que de réaliser ce service public. Bon, il faudrait rentrer vraiment dans les détails un peu sur l'histoire fine de la manière dont ça s'installe au tout début du XIXe siècle, ça je passe. Du coup, la comparaison avec nos voisins anglais, de ce point de vue-là, est relativement intéressante, puisque au moins dans les très grandes villes comme Londres, en Angleterre, on a eu une installation presque systématique de la commercialisation dès le XVIIe siècle, donc très très tôt. L'idée que vous réduisez complètement le service public, vous n'avez plus d'eau gratuite dans les rues, comme vous pouviez l'avoir auparavant. Par contre, l'obligation pour toutes les maisons de s'abonner et une indexation des consommations sur la valeur immobilière des maisons et des immeubles, donc un système qui, là encore, est déconnecté de la consommation réelle. Cette question-là, si vous voulez, l'idée que c'est payant commercial en Angleterre est déconnectée de la question de la gestion privée publique, puisque en Angleterre, on va avoir la grande phase de municipalisation qui commence dès les années 1870, et même en municipalisation, ils vont conserver cette idée de la commercialisation. Du coup, c'est une incompatibilité de modèle qui explique en bonne partie l'échec des grandes compagnies d'eau anglaises qui essayent de s'implanter au début du 19e siècle en France et qui n'y arrivent pratiquement jamais, pour une raison simple, c'est qu'à chaque fois, les villes leur demandent de réaliser un service public, c'est-à-dire de mettre à disposition de l'eau gratuite dans les rues en grande quantité, ce qui, pour le modèle économique de ces compagnies, est juste absurde, quoi, puisqu'elles ne vont pas pouvoir se rétribuer dessus. Plusieurs grands cas de tentatives de concession, en particulier à Paris, échouent sur ce point. Alors, vous avez plusieurs régimes de services d'eau pour l'essentiel du 19e siècle. Vous avez la régie directe ou partielle, c'est-à-dire que vous avez généralement à l'intérieur de ces régies toutes sortes de petits contrats d'affermage. Le plus fréquent parmi ces contrats d'affermage concerne la tuyauterie. C'est ça le cas le plus fréquent. Donc vous avez très très rarement une ville qui s'occupe absolument de tout. Et ensuite, vous avez des systèmes par concession dans lesquels c'est une concession beaucoup plus radicale que ce qu'on pourrait nous aujourd'hui concevoir comme concession, où véritablement tout est cédé à la compagnie, où la compagnie est réellement propriétaire jusqu'à un niveau assez impressionnant des infrastructures et de la politique qui est menée. Dans les deux cas, vous avez un service public, et ce qui va m'occuper aujourd'hui, c'est de vous montrer que précisément c'est la dimension de ce service public qui va être différente. Alors, je vais commencer par un certain nombre d'exemples de services publics en régie. Si vous prenez le cas parisien, l'ingénieur des ponts et chaussées, Emery, en 1840, explique précisément que l'eau doit être mise à disposition gratuitement et qu'elle l'est comme un bien, comme l'air que vous respirez, que c'est véritablement un bien qui doit être accessible directement, sans passer du tout par l'argent, et que donc le moyen le plus naturel pour cela, c'est la borne fontaine. La ville qui est véritablement paradigmatique de ce modèle-là, c'est Dijon, qui est installée par le projet, là encore, réalisé par un ingénieur des ponts et chaussées, Darcy, en 1840. Ça va être le modèle pour un très très grand nombre de villes par la suite. L'idée ici, c'est que, en gros, c'est ce qui est restitué ici dans le texte de Darcy, l'habitant ne doit pas avoir à faire un long trajet pour aller chercher son eau. Il faut qu'il trouve la borne fontaine directement au pied de son immeuble. Et donc, dans le projet de Darcy, vous avez une borne fontaine tous les 50 mètres, ce qui est véritablement radical, hein, c'est vraiment assez exceptionnel en centre-ville. Et du coup, vous avez ce modèle où effectivement l'eau est partout accessible et démultipliée pour que la corvée de l'eau même soit réduite. Alors, la conséquence directe qui va apparaître à Dijon, c'est que le service privé, du coup, va être à la traîne. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bornes fontaines que personne ne s'abonne au service privé. 10 ans après la mise en service, hein, vous n'avez que 84 abonnés dans les maisons, ce qui est exceptionnellement peu quand vous comparez à d'autres villes où le réseau de bornes fontaines étant plus lâche, vous avez eu beaucoup plus d'abonnements. Darcy, néanmoins, conseille à la ville de conserver son système, parce que, comme il dit, il faut conserver à tout prix ce système public. L'eau ne doit pas être mesurée aux gens, et il parle même de droit à l'eau potable gratuite dans la rue. Alors maintenant, je compare ça à un certain nombre de villes où vous avez un service public en concession. Je vous prends par exemple le cas de la ville de Laval, en 1866, traite avec un entrepreneur qui s'appelle Coiret. Laval est en très bonne position parce qu'elle a déjà un service d'eau, c'est-à-dire elle a déjà 45 bornes fontaines qui alimentent la ville. Et donc, elle va pouvoir négocier pour un aménagement de 20 bornes supplémentaires et un système assez complexe, mais finalement qui lui est assez favorable, d'intéressement, qui fait que si l'entrepreneur arrive à vendre beaucoup d'abonnements privés et à se rémunérer sur le privé, la ville à terme ne paiera pas pour l'eau supplémentaire qu'elle commande pour ses 20 nouvelles bornes fontaines, puisque l'idée dans ce type de contrat de concession, c'est qu'évidemment la ville paye un forfait pour l'eau qu'elle donne gratuitement à disposition aux habitants. À Nantes, vous avez une configuration très légèrement différente, puisque la ville ne dispose que de très marginal. Elle a aussi un petit réseau existant, mais il est tout à fait marginal. Et donc, la ville, là, passe un contrat qui est vraiment le contrat paradigmatique du 19e siècle, c'est-à-dire pour 60 000 francs par an, elle met à disposition 4 000 mètres cubes d'eau par jour, soit 75 bornes fontaines. Pour une ville de cette importance, c'est très peu, en fait. Et avec, en plus, un certain nombre de restrictions, qui est qu'on placera ces bornes fontaines de manière à ce que les intérêts de la Compagnie Générale des Eaux, là en l'occurrence, ne soient pas affectés. Enfin, dernier exemple, c'est une toute petite ville industrielle de banlieue parisienne, Ivry. C'est une ville qui n'a absolument pas d'argent, pas de revenus, etc. Là, le contrat est extrêmement maigre. La ville n'a pas d'argent, donc elle ne peut même pas payer l'eau gratuite dans la rue. Du coup, la compagnie va installer 4 bornes fontaines, mais des bornes fontaines qui ne coulent que 1 heure par jour et qui ne distribuent que 1000 litres. Du coup, évidemment, la ville ne paye rien et l'entrepreneur se rétribue sur les particuliers, mais le service public est quasiment inexistant, quoi. Alors, je déduis de l'ensemble des cas sur lesquels j'ai travaillé jusqu'ici deux propositions historiques. Ça pointe dans deux directions. La première chose, c'est que en régime de concession, vous avez un service public qui est généralement beaucoup plus limité et qui vient du fait, évidemment, que vous devez débourser de l'argent. Je vous donne l'exemple de la ville d'Orléans qui, en 1860, réfléchit au volume qu'elle veut mettre à disposition gratuitement dans la rue, 1200 mètres cubes par jour. Elle compare les coûts, ça lui revient à 10 centimes le mètre cube par la Compagnie Générale des Eaux et à 4 centimes le mètre cube si elle le fait directement. Et donc, cette différence de coût étant sans compter, évidemment, les revenus éventuels qu'elle pourrait avoir si elle arrive quand même à vendre quelques abonnements privés. Donc, moralité, si vous voulez, une ville a toujours intérêt au 19e siècle, et la plupart des villes font ce calcul-là, passer en régie municipale. La question, et c'est un peu la deuxième partie de cette thèse, c'est que précisément, certes, les villes veulent rester maîtres, mais c'est que justement, elles ne le peuvent pas toujours. Le dimensionnement qu'elles vont donner au service public dépend principalement de leur capacité à payer. Et étant donné que cette eau municipale, cette eau gratuite, est financée par l'impôt, par l'emprunt, la question cruciale, évidemment, c'est le taux d'endettement et la pauvreté de ces villes. Et donc, vous voyez se dégager un schéma qui est assez simple, qui est qu'en gros, les villes riches, avec beaucoup de revenus et qui sont peu endettées, passent en régime municipal parce que ça va leur coûter moins cher, et que les villes les plus pauvres, qui sont très endettées et qui ne peuvent pas se le permettre, vont passer en concession et vont payer une somme forfaitaire parce que c'est la seule manière qu'elles peuvent pour s'équiper. Ça explique un certain nombre de différences sur le fait que ce n'est pas forcément toujours les plus grandes villes qui s'équipent d'abord aussi. C'est-à-dire, d'un point de vue chronologique, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez aussi qu'en fait, c'est beaucoup plus une question d'argent, la question de l'équipement et du déroulement de la manière dont les villes s'équipent. Voilà. Et c'est lié aussi, évidemment, à la multiplication des institutions publiques de financement, et en particulier sous le Second Empire, qui va lancer un certain nombre de grandes banques publiques d'investissement, à partir desquelles ça va être beaucoup plus facile pour les villes de contracter des emprunts, de lancer lancer des systèmes obligataires, etc. Alors vous avez un basculement qui s'opère à Paris à partir des années 1870, mais qui s'étale jusque dans l'entre-deux-guerres, qui va faire basculer ce système de l'eau gratuite dans la rue et qui correspond à deux mouvements. Le premier mouvement, c'est la municipalisation. C'est un phénomène dont je vous ai parlé, qui est en gros européen, qu'on observe à peu près partout, et qui correspond là à un recul des concessions dans les grandes villes. Mais parallèlement, une limitation progressive du service public pour augmenter les revenus de l'eau. C'est-à-dire, vous avez dans le calcul que font ces villes, de plus en plus, l'argument qui est que, évidemment, ça coûte cher par l'impôt, et que donc, il y a un intérêt à récupérer de l'argent, et que récupérer cet argent se fait, évidemment, par l'abonnement, c'est-à-dire par la connexion de l'eau dans la maison. Donc, tous les enjeux, si vous voulez, qui sont des enjeux aussi hygiénistes, etc., d'installation dans les bâtiments, ont en fait une autre dimension en miroir qui est la dimension du revenu, et les villes vont être de plus en plus intéressées par cette question du revenu à partir des années 1870-80. Alors ça passe par quoi? Ça passe par le fait que vous fermez les bornes fontaines. Je vous ai mis ici une représentation de la fontaine Vallas. C'est un objet qui peut paraître assez sympathique dans l'espace urbain. C'est en fait le symbole même de ce mouvement de la marchandisation, puisque la fontaine Vallas vous interdit de puiser de l'eau. Vous ne pouvez plus mettre un seau sous l'arrivée de l'eau. Et d'ailleurs, ça n'est plus qu'un petit filet qui s'écoule. Vous avez remplacé, partout où vous avez une fontaine Vallas comme ça, à Paris, à partir des années 1870, c'est une borne fontaine réelle qui a disparu, où vous pouviez aller avec votre seau, et maintenant, vous ne pouvez plus que boire avec une petite tasse. Donc c'est une fontaine à boire, ça n'est plus du tout une fontaine à puiser. Vous retrouvez cette dimension-là dans toutes sortes de villes, je vais passer, avec un petit peu le même genre d'argument à la toute fin du siècle et au basculement. L'évolution est très très variable selon les villes, vous avez énormément de paramètres. Je vous ai mis là une petite enquête réalisée par la ville d'Angers en 1921 sur cette proportion eau commercialisée par rapport à eau produite, où vous voyez Poitiers à 25%, Angers à 27%, plusieurs villes qui ont encore, au début du XXe siècle, l'essentiel de leur distribution dans la rue, et où le service public est très très majoritaire, hein, peut être jusqu'aux trois quarts. Donc vous voyez que c'est une évolution très variable selon les villes et qui met un certain temps. Le vrai basculement, je m'arrêterai là parce que je ne vais pas en plus parler trop longtemps, s'opère à partir des années 30 avec une véritable modification des politiques public et tous les systèmes de financement par l'État qui concernent principalement les petites communes vont commencer à favoriser la commercialisation de l'eau pour que ça coûte moins cher à l'État, en gros. C'est principalement ça le principal enjeu. Et donc, cette réorientation des politiques publiques va avoir un effet assez radical, puisqu'à partir des années 30, il y a une extrême accélération de ce mouvement qui aboutit à la quasi-disparition en l'espace de 2-3 décennies de ces bornes fontaines. Voilà, je termine sur une publicité pour Haute-Paris, mon collègue. Mais ceci dit, avec un petit point critique, vous avez donc multiplication aujourd'hui, évidemment, du retour de cette borne fontaine qui revient. La ville de Paris fait chaque année cette campagne publicitaire assez étonnante sur les 1200 fontaines publiques, etc. Il y a tout un jeu sur ce retour de l'eau gratuite dans la rue, etc. Ce sont pour l'essentiel des fontaines à boire. Il y a très très peu dans ces fontaines-là de fontaines publiques réelles. Elles sont pratiquement toutes dans les jardins publics, quand vous regardez. Elles sont fermées en hiver pour la plupart. Voilà. Donc tout l'enjeu autour des SDF, etc. Tout ça, une petite réflexion du côté de la ville de Paris autour de ça. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que le service public tel qu'il était au XIXe siècle. Je vous remercie. Merci.
On peut signaler également que c'est l'anniversaire de la retour en régie.
Absolument.
C'est les
10 ans de
Paris. Qui est un retour en régie. Moi, j'avais rencontré les services et puis ma collègue Célia Bloel, qui est adjointe à la mairie. Et notamment, on a vu un débat très intéressant sur les bornes fontaines et même avec de l'eau gazifiée sur des points à Paris. Oui. Alors, avec des choses très performantes et très intéressantes. Moi, je suis assez regardant sur ce qui se passe à Paris. Alors, ils ont d'autres moyens que l'agglomération de Poitiers, mais il y a des mini-révolutions qui s'est opérée à Paris en moins de 10 ans. C'est assez notable.
Sur l'eau en bouteille, etc., ça a un certain impact.
Il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là. Très intéressant.
Mais merci, excellente transition en fait.
C'est déjà rencontré, je crois.
Je pense, oui, effectivement, Célia. J'ai vu que j'avais des animations que je voulais enlever. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, excusez-moi, ça sera plus regardable pour vous. Voilà, alors moi je vais prendre la suite. Donc, merci pour cette introduction à votre pari. Et moi, je l'ai abordé. Alors, je pense que l'autre volet que vous n'avez pas du tout abordé et qui me paraît très important, c'est la qualité de l'eau. Je pense que c'est, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais c'est très bien pour moi, merci. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier quand on parle de la distribution d'eau. Donc, je vais commencer un peu par un rappel du premier épidémiologiste, qui a un nom... pour ceux qui regardent un peu la télé, qui a un nom que les gens se rappelleront, qui est Jon Snow, qui est un peu le voilà, qui lui savait quelque chose. Jon Snow à Londres, médecin anglais en 1854, sera le premier à montrer. Alors il a une idée assez géniale, c'est qu'il fait ce que je vous ai mis là, c'est il fait une carte. Il y a une épidémie de choléra et il décide de regarder où sont les gens qui meurent du choléra. Et il voit que c'est centré sur une pompe qui est la fameuse pompe de Broad Street. Alors probablement une pompe publique. Hein, je pense que vous avez des éléments à apporter là-dessus. Et il décide avec les services municipaux, je crois municipaux, de couper cette pompe et l'épidémie s'arrête. Alors depuis, il y a eu un retour sur cet événement. On sait que c'est un chouï plus compliqué que ça. Néanmoins, c'est quand même le premier qui écrit un livre montrant qu'il y avait un lien direct entre la distribution d'eau potable. Alors nous, on a un vocable assez particulier. On dit EDCH pour eau destinée à la consommation humaine. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais bon, bref, voilà. Donc en tout cas, le premier lien entre cette EDCH et des gens malades. Il faut un peu de temps avant que les microbiologistes, hein, qui c'est un petit peu le début de la microbiologie, un petit peu après, vont montrer que c'est très important d'avoir une eau de qualité pour que les gens ne soient pas malades. Robert Koch, hein, que vous connaissez pour le BK, hein, travaillait, il faut savoir, sur l'eau aussi. Et il montre en Allemagne qu'il faut avoir une bonne filtration de l'eau sur les bassins filtrants, hein, filtration à sable, on verra ça un peu après, pour que ça fonctionne bien. Et puis, à peu près en même période en Angleterre, hein, le mari et la femme Paul et Garcia Frankland, qui sont deux microbiologistes, mettent en place une sorte de suivi de la qualité des filtres avec des méthodes de microbiologie, en suivant le nombre de bactéries qui sont après les filtres, pour regarder un peu si les filtres fonctionnent bien. Alors j'ai enlevé ce transparent, c'est dommage qu'on avait comme le laboratoire était à Ivry, je regarde souvent l'histoire autour d'Ivry, et les gens d'Ivry ont longtemps été très malades par rapport aux gens de Paris, parce qu'effectivement ils avaient un accès à une eau de très mauvaise qualité, ils allaient sur des puits qui étaient l'infiltration de la nappe de la Seine, et donc ils étaient malades et il y avait souvent des épidémies de choléra. Et il y a un livre du docteur Courgibet qui raconte tous les cas. Alors c'est assez terrible, c'est triste, parce qu'il raconte, je suis rentré dans la maison, la petite fille est morte, et puis deux jours après c'est le petit enfin voilà, donc voilà, il y a vraiment une épidémie. Bref. Les gens petit à petit se rendent compte que d'avoir de l'eau c'est bien, mais que si elle est qualité c'est quand même bien mieux. Et il y a une règle empirique qui va se mettre, puisque le risque principal qui est identifié à cette époque-là, c'est d'être infecté par des micro-organismes pathogènes, principalement le choléra au départ. Et donc il va y avoir une mise en place d'un suivi de règles de qualité. Et comme c'est difficile de suivre tous les pathogènes, ils vont se rendre compte assez vite que le lien comme la problématique commune de toutes ces maladies, c'est souvent que ça donne une gastro-entérite. Eh bien, si on arrive à voir qu'il n'y a pas de traces de contamination fécale, on va imaginer que l'eau est une eau de bonne qualité. Ça va évoluer. Donc au départ, pour suivre ça, ils vont décider de suivre une bactérie qui s'appelle à cette époque-là Bacterium coli. On a les vieux cahiers de laboratoire où ils suivent encore Bacterium coli, qui sera renommé un petit peu après en honneur de Escherichia coli. Et puis bah, c'est resté, puisque maintenant dans le code de la santé publique, hein, qui régule la qualité de votre eau, eh bien on est resté sur ces indicateurs de qualité, hein, ces limites de qualité qui sont Escherichia coli et entérocoque, deux micro-organismes intestinaux qui sont eux-mêmes pas pathogènes, mais qui vont nous indiquer qu'il y a des traces de matière fécale, et donc on a le risque qu'il y ait des pathogènes et qu'on ait donc une eau de mauvaise qualité. On a rajouté depuis d'autres références, hein, les coliformes, parce que pour des raisons méthodologiques, on ne savait pas suivre pendant longtemps uniquement les Escherichia coli. Et puis deux indicateurs que si vous lisez, vous arrêtez ARS, vous pouvez trouver, qui sont la flore totale, qui vont vous donner une idée de la qualité du réseau vis-à-vis du biofilm. Je ne sais pas si on abordera ça, mais voilà. Et puis les SBSR, qui sont quand on fait des eaux filtrées, ce qui nous embête, et on en parlera un peu après, c'est pas réellement les bactéries, c'est plutôt les parasites. Et donc l'idée des SBSR, c'est de suivre un peu les parasites. Voilà. Donc actuellement, c'est écrit, les eaux destinées à la consommation humaine, EDCH, comme je le disais tout à l'heure, ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration, hein, j'aime beaucoup cette subtilité du nombre et de la concentration, de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Voilà. Et donc, il y a par mimétisme les eaux, d'autres types d'eau qu'on suit la qualité, dont on suit la qualité, pardon, type les eaux de baignade, les eaux embouteillées. On va suivre un peu toujours ces indicateurs fécaux. Alors, comme on a un vieux laboratoire, parce que la ville de Paris existe et s'est intéressée à la qualité depuis. C'est au début, c'est l'Observatoire Montsouris qui avait un très beau laboratoire jusqu'aux années 70 qui était au haut du parc Montsouris, qui suit la qualité de la Seine. On a des vieux cahiers de laboratoire et avec des collègues. On a essayé de regarder toute la qualité et on peut voir l'augmentation de la population d'Île-de-France. Vous avez ici, alors attention, c'est une échelle logarithmique. Chaque fois que vous montez un cran, il y a 10 fois plus d'échelles chaque colis. On voit bien entre 1910 et à la fin des années 80, la dégradation assez importante de la Seine. Alors là, c'est à Ivry et vous avez Poissy aussi. Enfin, on voit bien que globalement, entre avant Paris et après Paris, c'est un peu moins bien. Et on voit qu'il faut du temps avant que le traitement des eaux usées soit suffisant pour qu'on ait. Une amélioration de la qualité, mais on voit qu'on n'a toujours pas revenu aux débuts des années 70. On est à un niveau des alentours de 1000 à 10 000 Escherichia coli par 100 millilitres. Excusez-moi, il n'y a pas l'échelle qui apparaît, donc c'est le nombre d'Escherichia coli par 100 millilitres d'eau. Et juste pour vous donner, parce que c'est plutôt rigolo, la qualité baignade est un petit peu en dessous. Voilà, mais donc on voit que ça demandait des efforts énormes. Donc le SIAP, qui est le service municipal régional qui s'occupe de la qualité des eaux, a dû faire beaucoup de travaux pour essayer d'améliorer la qualité. Mais leur but, ça n'a jamais été d'améliorer les Escherichia coli, c'était plutôt d'enlever le carbone, l'azote et le phosphore, et par un effet indirect, d'enlever les Escherichia coli. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais faire une liste à la Prévert de tous les paramètres de qualité. Mais non, je vais essayer de passer vite parce que c'est très pénible, mais c'est pour montrer qu'on ne suit pas que les Escherichia coli et les entérocoques, hein, c'est ce que je vous disais. Juste, si ça vous intéresse, il y a deux façons de faire. Il y a les limites de qualité. Donc là, c'est que si vous avez un Escherichia coli, un entérocoque, c'est-à-dire que l'eau n'est pas potable, le producteur d'eau, donc la personne, la PPRDE, la personne publique responsable de la distribution de l'eau, va être en charge de trouver une solution, de vous donner des bouteilles d'eau. Voilà. Si c'est la référence de qualité qui n'est pas égale à zéro, ça veut dire que l'eau est encore potable, mais il y a un vrai problème, il va falloir essayer de trouver une solution à cette problématique. Et l'ARS va essayer de trouver une solution. On ne suit pas, bien sûr, que les paramètres microbiologiques. Et d'ailleurs, on en suit très peu des paramètres microbiologiques. On suit principalement des paramètres chimiques. Plein de métaux, hein, vous voyez ici, l'aluminium, des différents composés chimiques avec des limites de qualité très basses. Hein, on est de l'ordre de la trentaine de nanogrammes, donc 0,03 microgrammes par litre. Le chlore, bien sûr, on essaie d'avoir un petit peu de chlore dans l'eau. Alors, il n'y a pas de limite là, sur le chlore, si vous le voyez. C'est juste pour qu'on ait on n'ait pas de développement de bactéries, qu'on n'ait pas de flore totale trop importante dans l'eau. Je vais passer vite parce que la liste est très longue. Bien sûr, on suit la conductivité, la couleur, le carbone. Pourquoi le carbone? Parce que là aussi, ça va permettre aux bactéries de se développer dans le réseau. Et donc, c'est plutôt embêtant. Donc, vous voyez encore une liste de paramètres physico-chimiques qui continuent. Manganèse, mercure, microcystine. Ce n'est pas un paramètre chimique. Mais les nitrates, ce qui est une vraie problématique en zone agricole. On va le voir après. Voilà, et puis ça continue encore des paramètres physico-chimiques, le plomb bien sûr, parce que la plombémie est vraiment une problématique importante, le zinc, et puis même la radioactivité, où il y a des mesures de radioactivité qui sont faites sur les eaux pour éviter d'exposer les populations. Je ne sais pas si on en parlera après, peut-être dans le stage, mais voilà. Juste l'organisation très rapidement, parce que en France, on a un système, alors là, pour le coup, très particulier du contrôle de l'eau. La plupart des autres pays, le producteur d'eau, il va contrôler son eau et puis il va donner des rapports pour dire que son eau, c'est les mêmes paramètres, hein, c'est une réglementation européenne. Comme je vois là, l'Union européenne fait une réglementation qui, il faut le savoir, est en cours de changement. Il y a un vote qui a été fait au niveau de l'Union européenne pour que normalement les paramètres de suivi de la qualité d'eau de l'Union européenne vont changer. Je ne sais pas si on l'abordera, on verra. Ce code de la santé publique est traduit la réglementation européenne est traduite en code de la santé publique en France, et le ministère de la Santé, via ses agences régionales de santé, je crois qu'on a une dame cet après-midi de l'ARS qui est là, va appliquer le contrôle sur l'eau en demandant à un laboratoire de faire des prélèvements et des analyses sur votre réseau d'eau. On a assisté à quelque chose d'assez intéressant il y a une dizaine d'années, c'est qu'à la fois, il y a eu... une volonté de plein de villes de remunicipaliser l'eau, et Paris, on en a un exemple. On avait une organisation où Veolia et Suez étaient chargés de distribuer, de facturer l'eau sur la rive droite et la rive gauche sans la produire. Et donc la ville a décidé de tout récupérer, mais il y a plein de villes qui ont essayé de, ou qui sont en train d'essayer de faire ça. Et en parallèle, les départements qui avaient des laboratoires départementaux d'analyse et qui souvent travaillaient pour les ARS, on a dit que les départements considéraient que ça coûtait un peu cher et que c'était coûteux. Et donc les ARS font des appels d'offres et la plupart du temps, alors sur, on a une bonne ligne, hein, mais la partie ouest de la France est restée plutôt publique, mais tout ce qui est Strasbourg, le sud, ce sont des laboratoires privés, principalement deux, hein, Carso et Eurofins maintenant, qui font le contrôle de la distribution d'eau. Donc on a assisté à une remunicipalisation de la distribution d'eau et une sorte de privatisation du contrôle que je trouve assez intéressant. C'est toujours étonnant que le privé contrôle le public, mais c'est comme ça. Voilà, oui, c'est assez étonnant. Et c'est une spécificité française, hein. Les autres pays n'ont pas de contrôle extérieur. On considère que les gens qui produisent de l'eau, ils sont assez raisonnables pour vous donner des résultats corrects. Mais nous, en France, on a voulu que l'État contrôle. Alors, j'avais mis en orange ici, c'est que c'est privé. Donc, l'eau, ça dépend si vous êtes en régie publique ou en régie privée. Et mais il y a quand même une partie de nos analyses qui sont remontées à l'ARS, quand même, ça sert. On ne fait pas des analyses pour rien. Ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour les ARS. Pareil, c'est un élément que je trouve important quand on regarde l'eau pour s'assurer de la qualité. On va faire un certain nombre de contrôles et ce nombre de contrôles, eh bien, bien sûr, il est coûteux. Donc, ça va dépendre de la taille de votre UDI. L'UDI, c'est la zone où on distribue une eau de qualité homogène. Et donc, on voit que sur les toutes petites UDI, si votre producteur d'eau il fait entre 0 et 49 personnes, vous avez très peu d'analyses. Donc, les analyses de P, c'est production, D, c'est distribution. Et vous voyez que vous avez environ 4 analyses de distribution et une analyse de production, environ 5 analyses par an faites sur votre usine et sur votre réseau de distribution, et qui est bien sûr beaucoup plus élevé quand on a beaucoup plus de gens connectés. Mais voilà, c'était intéressant de montrer que ben, quand on a des toutes petites régies qui font de l'eau, elles font très peu d'analyses, parce que c'est coûteux, que c'est compliqué, hein, c'est le producteur d'eau qui va payer l'analyse. Voilà, alors un petit focus sur Paris, comme j'étais un peu obligé, puis je répondrai, essayer de répondre aux questions de mon collègue précédent. Bien sûr, on a plein de missions. Hein. Alors, bon, excusez-moi, c'est un chouï commercial. On protège la ressource, on va gérer les ressources, parce que vous allez voir, on a des ressources très loin. On va transporter l'eau, on va la traiter, parce que c'est sec. Pour avoir de l'eau de qualité, il faut la traiter. On va voir que nos ressources sont très impactées par des pollutions. Et je vais essayer aujourd'hui de vous démontrer que la pollution, c'est pas toujours les autres. Et que quand on parle toujours de pollution, d'écologie, c'est aussi nous. Et que la principale pollution des eaux, c'est nous. Et que, bien sûr, il y a d'autres gens qui polluent l'eau, mais qu'on pense toujours aux autres gens qui polluent, mais on oublie toujours que le principal pollueur, c'est nous quand on fait de l'eau usée. Voilà. Bien sûr, on gère les réservoirs, la distribution, on va réguler la pression, etc. Quelques données sur Paris. Donc, on a une grosse régie d'eau. Hein, on fait de l'eau pour 2,2 millions d'habitants, 4 millions d'utilisateurs. Donc, ça fait un petit peu plus gros que le département de la Vienne. Donc c'est, voilà. Ça fait en gros 500 000 m3 jour. Hein, c'est fluctuant, mais c'est 500 000 m3 jour. Ça descend. Hein, il y a une trentaine d'années, on était à 1 million, mais les fuites sont de plus en plus faibles. Les gens sont de plus en plus économes en eau et c'est très bien. Donc, en gros, tous les ans, c'est 2% de consommation en moins. Voilà. C'est un réseau qui fait 2000 km, un réseau très maillé, il y a beaucoup d'interconnexions. On a quasiment 500 km d'aqueduc et 7 usines de traitement et 5 réservoirs. Et on a et c'est très bien que vous ayez présenté avant, on a un réseau dit d'eau non potable, qui est ce qui reste de l'ancien réseau public qui avait été créé sous Haussmann, si je ne dis pas de bêtises, mais vous me corrigerez.
Ah non, c'est le premier empire.
C'est le premier empire, d'accord, donc c'est même avant. Et donc il reste, et qu'on a conservé, alors il n'est pas dans un très bon état, mais il distribue toujours de l'eau avec une pression assez faible, mais qui nous permet de nettoyer les rues et de remplir les lacs d'agrément qu'on a au parc Montsouris, Boulogne, Vincennes. Avec une eau qui est uniquement pompée dans le canal de l'Ourcq, un petit peu dans la Seine, c'est vrai. Voilà. Donc on a toujours ce réseau qu'on essaie de gérer. Donc d'où vient notre eau potable à Paris ? Eh bien, on a deux origines d'eau. Hein, et en France, dans tous les pays, on a généralement que dans toute la France, on a deux origines d'eau. Soit on a de l'eau de surface qui est traitée. Et donc nous, on a deux usines, une sur la Seine à Orly et une sur la Marne à Joinville. On avait une troisième Ivry, mais comme on avait moins en moins de production d'eau, on a diminué la production d'eau. Donc ça, c'est les eaux surface, on va voir, elles sont fortement traitées, parce que les eaux sont très contaminées, et les eaux souterraines, c'est principalement pour Paris, c'est pas des forages, c'est des résurgences naturelles, normalement c'est des sources qui vont alimenter des rivières, hein, la Vanne ou le Loing, et on en récupère une partie, il est vrai, assez importante, qu'on va canaliser dans nos aqueducs pour les ramener à Paris, avec quand même un traitement, puisque c'est en zone agricole, donc on a un petit peu de nitrate, de pesticides bien sûr, et puis il y a un petit peu de micro-organismes qu'on doit éliminer. Voilà. Et donc on voit que c'est assez loin, on a des ressources en eau qui sont à plus de 100 km de Paris, hein. C'est, on va jusqu'à en Bourgogne, et puis même dans l'Eure, donc on récupère de l'eau très loin. Ce qui pose plein de questions politiques, parce qu'effectivement, Paris est tout petit, c'est difficile pour Paris d'avoir sa propre production d'eau, mais dès qu'on va chercher de l'eau ailleurs, les gens ont l'impression qu'on leur vole de l'eau, et je trouve que c'est un débat assez complexe à gérer, parce que si les gens ne peuvent boire que de l'eau qui est de chez eux, effectivement les Parisiens, ils n'ont pas beaucoup de chance. Donc voilà. Et donc, si on regarde d'un point de vue un peu plus général et qu'on s'éloigne, pareil, on a nouveau la taille des UDI, enfin classe de débit, mais en gros, c'est le volume de vos sources, des sources utilisées. Et ce qu'on peut voir, c'est que plus on a des grosses sources, plus c'est principalement des eaux surface traitées, et plus on a des petites sources, plus c'est des eaux souterraines. Ce qui est assez logique, mais ce qui veut globalement dire, c'est que les petites régies, elles ont plutôt des eaux souterraines très peu traitées, et que les grosses régies, elles ont des eaux de surface traitées. Voilà, c'est en gros ça que ça veut dire. Quelques images, parce que c'est toujours intéressant, j'ai pas suivi l'heure, mais voilà, donc c'est nos résurgences. Alors souvent c'est assez joli, parce que ça a été fabriqué il y a longtemps, donc ils faisaient attention à cette époque-là à faire des choses belles. Là on voit pas, mais il y a de l'eau, hein. En fait l'eau est très très claire, donc c'est les sources d'Armentières, qui se visitent pas, hein, parce que c'est protégé. Ensuite on a des aqueducs, qui pareil, qui ont été construits avec une pente très faible, hein, c'est de l'ordre de 10 cm pour 100 mètres, donc vraiment, même si c'est fabriqué dans les années 1800, fin du 19e, c'est quand même des ouvrages d'art assez intéressants. Là, ce qu'on appelle les arcades du grand maître, hein, qui sont assez jolies. Et voilà, donc ça c'est pour les eaux souterraines. Pour les eaux de surface, on a un traitement qui est très important. Donc on va utiliser du filtre à sable, hein, c'est historiquement ce qui est utilisé pour le traitement de l'eau, à faire percoler l'eau à travers le sable. L'idée c'est un peu de mimer ce qui se passe dans la nature. Quand il pleut, l'eau elle passe à travers le sol et elle va être filtrée naturellement. Les premiers à faire ça, hein, les Anglais qui avaient mis ça au point, mais que très vite tout le monde a suivi, on fait la même chose, on met des filtres à sable et puis l'eau elle passe à travers le sable. Sauf que maintenant c'est qu'il y a d'autres polluants, donc on va mettre derrière, on va faire de l'ozone pour essayer d'éliminer principalement les virus et les parasites. Puis on passait ça sur des charbons actifs en grains pour éliminer tout ce qui est traces de pesticides, de résidus de médicaments et autres molécules organiques qui vont nous gêner. Puis tout ce qu'on a créé en mettant de l'ozone aussi, parce que l'ozone ça fait des molécules réactives et c'est pas très bon. Et puis derrière, on va mettre des ultraviolets, je vous dirai un peu pourquoi après, pour de nouveau éliminer les micro-organismes. Et puis on va chlorer. Alors les gens ils se plaignent toujours du goût du chlore, mais le chlore c'est important parce que ça permet d'éviter les développements bactériens dans le réseau. Puis on va distribuer. Juste très vite, pourquoi on met des UV ? C'est parce que l'ozone, quand il y a du brome et de l'ozone, ça fait des bromates. Et les bromates, c'est pas très bon pour la santé. C'est un cancérigène à forte concentration, mais on veut pas en mettre un petit peu dans l'eau. Donc on diminue la concentration d'ozone pour pas faire de bromates. Mais comme on avait diminué l'ozone, on n'avait plus de barrière contre les virus et les parasites. Donc on a rajouté les UV pour contrebalancer cet effet multibarrière. Et donc c'est pour ça qu'on a les trois traitements à Paris. C'est assez rare. Donc on a ozone, UV, chlore. Souvent, les gens n'utilisent que deux barrières. Voilà. Et puis ensuite, on a des très beaux réservoirs, le réservoir Montsouris. Avec cette arrivée des deux aqueducs, hein, Van et Loing, que vous pouvez voir ici. Et puis à l'intérieur, c'est vraiment plutôt joli. Quand on allume la lumière, on s'est éteint, mais quand on allume la lumière, voilà, c'est deux réservoirs l'un sur l'autre, donc c'est pour ça qu'il y a des piliers de soutènement. Voilà. Maintenant que je vous ai abordé un peu très rapidement l'histoire et d'où on fait l'eau, je vous ai dit que la qualité est importante. Comment on mesure la qualité? Et je vais principalement me focaliser sur la bactériologie, parce que c'est ça qui rend les gens malades tout de suite, et puis c'est mon domaine. Donc, c'est plus facile. Donc comment on va faire pour suivre s'il y a des indicateurs fécaux? Alors il y a eu une longue évolution des techniques. Pendant longtemps, les gens travaillaient en milieu liquide. Et puis les Allemands ont découvert le milieu gélosé. Et comme c'était les Allemands, les Français, pendant longtemps, ils ont dit non, on n'utilisera pas de milieu gélosé. Donc on est resté très longtemps en France sur des milieux liquides avec des tubes et des dilutions. Mais finalement, on s'est quand même rendu compte que c'était pas mal les milieux gélosés. Et donc la norme ISO, internationale de mesure des échelles chez colis est basée sur un milieu gélosé. Alors comment on va faire? On va prendre 100 ml d'eau, on va le filtrer sur une membrane de 0,22, donc ça veut dire que la maille est beaucoup plus petite qu'une bactérie, donc les bactéries vont rester sur notre membrane. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de schématiser là. On va perdre tout ce qui reste, et puis cette membrane, on va la déposer sur un milieu gélosé spécifique, on va incuber en fonction de ce qu'on cherche un certain nombre de jours à une certaine température, et on va avoir des petites colonies qui apparaissent, et ensuite on va vérifier que ces colonies, c'est soit du Escherichia coli, soit du coliforme, soit autre chose, et bien si on n'a aucune colonie qui pousse, l'eau était potable, on n'avait pas d'échelle chez. Voilà, je ne sais pas le niveau des gens, donc je préfère que c'est important de leur expliquer. C'est toujours intéressant de savoir comment on contrôle nos eaux. Voilà. Mais il y a d'autres choses qui nous intéressent, et c'est ce que je vous disais, en milieu agricole, on a des parasites, et quand on regarde les épidémies, dans les pays occidentaux, les épidémies importantes d'origine hydrique, c'est principalement du cryptosporidium et du giardia, qui sont des parasites, des zoonoses, puisque ça peut être produit par les animaux, principalement les animaux d'élevage, hein, et qui peuvent infecter à la fois les humains, et c'est un peu les mêmes souches qui peuvent infecter les humains et ces animaux. Et donc, dès qu'on a l'élevage, on trouve ces micro-organismes dans l'environnement. Et c'est juste pour montrer que c'est très long à analyser, puisqu'on va filtrer des gros volumes d'eau. Sur les eaux de surface, on va prendre 20 litres. Quand c'est eaux potables, on va filtrer 100 litres. Et puis ensuite, derrière, on va faire toute une étape de concentration, parce qu'on ne peut pas mettre 20 litres sous un microscope, c'est un peu long à regarder. Donc on va essayer, avec des anticorps très spécifiques, de concentrer ces micro-organismes, les cryptos, les giardia, et puis on va les compter au microscope. Les techniciens ils passent des heures à compter si on a des foyers de cryptos et giardia, et ça nous permet de s'assurer que les gens ne sont pas malades. Voilà. C'est plus un schéma pour dire, bah voilà, vous avez des cryptos dans l'environnement. Si on boit ou qu'on est en contact quand on se baigne avec ces cryptos, on peut être malade et quand on est malade, on va les relarguer dans l'environnement. Voilà. Et que c'était l'une des principales causes de contamination. Plutôt crypto et giardia. Voilà. Et c'est intéressant parce que je voulais vous montrer que malgré qu'on ait des pays et des systèmes de traitement très importants, on a eu quelques épidémies très très fortes à crypto et giardia. La première, celle qui a fait que dans les pays anglo-saxons, eux, ils sont vraiment très très sensibilisés, c'est qu'ils ont eu à Milwaukee, en 93, une épidémie où ils ont eu 400 000 personnes qui ont été la gastroentérite liée à la distribution de nous avec un petit peu de crypto dedans. Alors ils avaient un problème de filtration, hein, ils n'étaient pas rendus compte, et donc, il y a 400 000 personnes qui ont une gastro-entérite, et donc c'est assez compliqué d'un point de vue. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Une gastro, c'est pas terrible pour la population générale, mais pour les personnes très âgées, les gens immunodéprimés, ça peut être assez sévère. Voilà, donc il y a eu forcément des cas un peu plus graves. Et puis plus récemment, hein, les Suédois, qui ont souvent une eau de très bonne qualité, parce qu'ils ont une eau très froide, donc il y a souvent très peu de bactéries dedans. Ils ont souvent des traitements assez limités parce qu'ils sont très très fiers de leur eau de bonne qualité. À Östersund, il y a eu un lotissement qui s'est fabriqué et au lieu de se raccorder à tout à l'égout, il y a une petite erreur, il a largué dans le lac et leur système de traitement n'était pas dimensionné pour enlever les cryptos. Et il y a 20 000 cas, alors comme ça on dirait que c'est pas beaucoup, mais la ville a fait 47 000 personnes, donc il y avait 50% des gens qui avaient une gastro-entérite en 10 jours. Donc en fait c'est l'hôpital qui s'est rendu compte quand tous les techniciens et tous les gens étaient malades, ils ont commencé à se poser des questions. Et ils ont trouvé assez rapidement effectivement qu'il y avait des cryptos avec des concentrations très faibles, on avait moins d'un crypto par litre, mais c'est suffisant pour rendre les gens malades. Voilà, donc c'est quand même plutôt rare. Hein. Je suis produit de l'eau, donc je ne peux pas vous dire que ça arrive. Et quand ça arrive, comme ben, on distribue une grande population, si l'eau n'est pas de bonne qualité, ben, les gens ils sont malades. C'est ce qui se passait au début du siècle avec le choléra. Quoi. Voilà. Autre point, parce que c'est le cœur du métier à Haute-Paris, on a donc un labo de recherche dans lequel je m'occupe et on s'intéresse à différentes thématiques. Et nous, ce qu'on trouve un peu l'angle aveugle, parce que c'était difficile à chercher, c'était les virus. Puisque l'autre principale cause de gastro-entérite, quand ce n'est pas des cryptogérias, c'est des virus. C'est une vraie problématique. La problématique virus, elle est un peu apparue, j'essaie de vous le mettre là, alors c'est des revues scientifiques, mais ça fait du bruit un peu plus tard, c'était qu'il y avait des gens dans des bouteilles d'eau. Alors je suis toujours déçu qu'on ait des bouteilles d'eau et pas des carafes du robinet, je suis désolé si monsieur... Vous devriez mettre des carafes d'eau. C'est mieux pour le plastique. Ah voilà, en plus, j'en suis sûr. Bref, c'était des gens qui travaillaient sur la qualité des eaux embouteillées et ils se sont aperçus qu'ils avaient des traces de génome de virus. Et donc ça avait fait un peu de bruit dans les médias. C'était en 2002, donc c'était déjà une quinzaine d'années, mais ça avait un peu inquiété les producteurs d'eau. C'est pour ça que c'est depuis le début des années 2000, on s'intéresse beaucoup au virus. Donc il y a eu bien sûr une série de réponses et on s'est rendu compte que ce n'était pas des vrais virus vivants, mais principalement des traces d'ADN, parce que vous allez voir, on a un peu évolué les techniques. Et puis plus récemment, en Isère, hein, sur une petite unité de distribution, il y a eu une très grosse épidémie qui était liée à une contamination par des rejets d'eau usés de leur eau, et c'était des virus qui étaient distribués. Le problème, c'est comme ils chlorent, et bien les bactéries, les Escherichia coli meurent, mais les virus qui sont plus résistants sont dans le réseau de distribution. Petit rappel, qu'est-ce que c'est les virus ? Les virus, c'est pourquoi on est embêté par les virus ? Parce que c'est beaucoup plus petit. Les bactéries font 1 micromètre, les virus ils font moins de 100 nanomètres, donc ils sont 100 fois plus petits. En gros, un virus pas vraiment vivant, c'est de l'acide nucléique, l'ARN et l'ADN, protégé par des protéines. Il faut très peu de virus pour qu'on soit malade. Alors souvent, c'est par contact, en serrant la main quelqu'un qui a une gastro qu'on va être malade, mais quand ils passent dans l'eau, et bien, ils sont assez résistants pour résister. Les virus non enveloppés, je ne rentre pas dans les détails, mais les virus nus, ils sont assez résistants dans l'environnement. Alors, c'est principalement des virus qui donnent des gastro-entérites, hein, norovirus, adéno, rota, etc. Mais il y en avait certains qui, à une époque, étaient embêtants, hein, les entérovirus, dont vous connaissez un exemple très connu, qui est le poliovirus, qui est un entérovirus, et qui donnait, lui, des atteintes beaucoup plus graves que juste une gastro-entérite. Et donc, pour les suivre, comme on n'a pas de modèle cellulaire, on les suit par biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher leur capacité à se multiplier dans les cellules, mais la présence de leur génome dans l'eau. Donc pour ça, on va prendre des très gros volumes d'eau qu'on va concentrer et on va regarder si on a du génome. Si on a du génome, c'est qu'on a probablement des virus. Et le lien n'est pas toujours direct, tout le fait qu'avant, sur les bouteilles d'eau, ils ont eu ce problème. Donc juste quelques données intéressantes. Sur la Seine, on s'est dit qu'on avait des données historiques depuis très longtemps sur la qualité de l'eau vis-à-vis de les bactériaux. Donc on a regardé si on avait la même chose sur les virus. Et donc depuis 2009, avec la ville et puis d'autres partenaires, on regarde un peu la quantité de virus. Et c'est là que c'est pour revenir au propos que j'avais au départ. D'où viennent ces virus ? Eh bien, ils viennent uniquement des stations d'épuration. Et donc, c'est les gens malades qui passent leur temps à rejeter des virus dans leur toilette. Virus qui ne sont pas éliminés par les stations d'épuration, ou en tout cas très mal. Ils éliminent un ou deux logs, c'est-à-dire il reste 90 ou ils éliminent 90 ou 99%. Comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est très peu dans la bactérie. Quand on a 10 puissance 9 virus en entrée, quand on en élimine deux logs, il en reste 10 puissance 7 en sortie, donc ça fait beaucoup. Et la dilution n'est pas très forte. La Seine, c'est une petite rivière. Et donc, eh bien, on a pu regarder d'où ça venait. Et 60 à 90% des virus, ils viennent des stations d'épuration. Et puis, on a trouvé des effets rigolos que je trouve toujours intéressant à souligner. Eh bien, quand on a beaucoup de gens en Ile-de-France, donc on travaille avec les médecins, les hôpitaux, la PHP, avec le réseau Sentinelle, et il suit le nombre de gastro-entérites. Et ce qu'on voit, c'est que quand en Ile-de-France, il y a beaucoup de gens qui ont des gastro-entérites, nous, on voit beaucoup de virus dans les eaux de surface. Et donc, on a finalement la qualité des eaux qui suit la qualité sanitaire de la population. Et je trouve que c'est toujours une bonne illustration pour montrer que. Eh bien, voilà, quand les gens sont malades, ils ont un impact sur l'environnement. Voilà, je vais conclure maintenant. Donc, pour vous dire que l'eau potable est très contrôlée, hein, je ne veux pas finir sur ce point négatif, l'eau potable est très, très contrôlée. Que les indicateurs nous permettent quand même, on a plus d'épidémie de choléra et on a quand même peu de gens qui sont malades, mais quand il y a des dysfonctionnements, bah, c'est assez important, c'est plus remarqué qu'avant. Qu'on a de plus en plus de mesures, hein, donc voilà, je vous disais que l'Union européenne change la réglementation et on va avoir deux paramètres supplémentaires. On va suivre la qualité des virus. Alors, on ne va pas suivre les virus, c'est trop compliqué, mais des virus de bactéries, parce que c'est plus facile à suivre, et ça nous permettra de voir que les usines éliminent bien les virus, donc ce qu'on appelle ça des phages, si vous suivez. Et puis, on regardera un peu au robinet, si on a moins de bactéries qui ne sont pas liées aux matières fécales, mais qui peuvent se développer dans les réseaux, notamment les légionnelles, par exemple, si on n'en a pas trop qui se développent. Voilà. On est, surtout notamment dans les régions très, très, très urbaines, on a des ressources qui sont parfois polluées. Je n'ai pas parlé de la pollution des eaux souterraines, qui est un peu différente, mais sur les eaux de surface, on a des pollutions liées aux eaux usées, qui est assez importante. Et donc ça nous oblige à faire des traitements de l'eau comme vous avez vu qui sont très complexes et ça boucle un peu avec vous, le fait qu'on ait des traitements très complexes, même si l'eau effectivement en elle-même elle est gratuite, le traitement il est payant et la qualité du traitement est payante, d'où le fait que l'eau ait un coût, même s'il essaie d'être calculé le plus justement possible. Voilà, c'est pas du tout le temps que j'ai mis, mais j'espère que je vais pas trop dépenser.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais avoir un regard d'un élu qui est en charge de la production, de la distribution d'eau potable sur l'agglomération Poitevine. Et j'ai opté pour ce sujet d'un angle plutôt juridique. Alors, comme élément introductif, je voulais commencer avec vous sur un état des lieux. Faire ça rapidement, de nos ressources, mais aussi des services de l'eau. Alors en France, il faut savoir que nous disposons d'une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Je dis de bonne qualité, mais je ne dis pas de très bonne qualité. Alors cependant, quantité et qualité restent fragiles et parfois la qualité est préoccupante pour diverses raisons. Tout d'abord, nos ressources, que ce soit au niveau local comme national, sont soumises à des pollutions de toutes sortes, la plupart du temps des micropolluants, nitrates, pesticides, et puis en milieu urbain aussi, sur le pluvial, des hydrocarbures. Donc ça, c'est l'activité humaine, hein, c'est nous-mêmes, mon collègue l'a dit, nous polluons nos réserves et nos environnements, en fait. Alors là, tout l'enjeu, c'est bien un retour de niveau de qualité de nos réserves d'eau brute. Et c'est, à mon sens, un enjeu capital de santé publique. Alors, on peut voir aussi les difficultés d'action des collectivités territoriales par rapport à ces enjeux. Et puis, qui arrive là depuis quelques années, nous on le sent là sur nos terres poitevines, hein, les changements climatiques qui ont des conséquences et qui doivent être anticipées dès à présent. Et face à cet enjeu, et sans moyens budgétaires complémentaires, les collectivités territoriales responsables du service de l'eau sont parfois contraintes à des arbitrages budgétaires ou environnementaux. Alors je ne développerai pas plus en aval ce sujet, je crois qu'il sera traité vendredi prochain, et ici même il y aura une conférence sur ce sujet-là. Alors pour entrer plus précisément dans le sujet, en ce qui concerne l'eau, un bien comme un autre, ça veut dire que nous devons définir un statut pour cette eau. Alors on peut voir depuis un peu plus d'une dizaine d'années, les sciences humaines et sociales s'interrogent sur le statut de l'eau. Alors, est-ce un bien privé ? On peut se poser la question. Une marchandise ? Ou à l'inverse, peut-on parler de bien commun et de droit fondamental à l'eau ? Alors, ces compétences-là de l'eau sont exercées par les collectivités territoriales. On voit que l'eau potable, et là je parle bien d'eau potable, constitue un service de première nécessité, voire le premier d'entre eux. Il relève essentiellement de la compétence des collectivités territoriales, et notamment depuis la loi NOTRe des intercommunalités. Donc sur notre territoire et ailleurs, ce n'est pas la ville de Poitiers qui gère le service de l'eau, ni sa politique, ce n'est pas le département de la Vienne, ce n'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la communauté urbaine de Grand Poitiers. La compétence se trouve ici. Et pour information, sa gestion est assurée en régie directe pour les services de l'eau, mais aussi pour les services de l'assainissement. Alors en France, la distribution et le traitement de l'eau prend la forme d'un service public qui peut être délégué à un opérateur privé. Ce sont donc les collectivités qui déterminent, un, le prix de l'eau, et d'ailleurs ce sont les élus qui font le choix d'une exécution publique ou privée des services de l'eau. Alors si l'eau est très peu onéreuse dans les pays où elle se trouve en abondance, il est nécessaire, et mon collègue l'a rappelé, de la traiter, de la transporter afin de la fournir aux abonnés dans les meilleures conditions. Alors que nous disent les abonnés ou les consommateurs sur ce sujet? Ils sont satisfaits de leur service de proximité de l'eau et de l'assainissement. On voit sur le territoire national que les services sont suffisamment performants pour que toute la population, ou presque, accède à l'eau potable, mais aussi à la dépollution des eaux usées. Alors pourquoi je dis presque? Il y a une partie, malheureusement, infime de la population française qui n'a pas accès quotidiennement à l'eau potable. C'est souvent une population qui est privée aussi de domicile. Donc voilà, c'est une double, j'allais dire, une double sanction pour cette population privée de domicile et privée d'accès à l'eau potable. Alors on peut aborder aussi quels sont les enjeux économiques par rapport aux politiques de l'eau. Comme vous venez de le comprendre, le secteur de l'eau implique des investissements assez considérables en matière d'infrastructures. La plus grande partie du coût de l'eau, ce n'est pas l'eau en elle-même, mais ce coût-là provient de l'amortissement et de la maintenance des équipements, auxquels s'ajoutent les coûts liés à l'exploitation et aussi aux frais de fonctionnement du temps agent. Nous pouvons donc évoquer la notion de bien économique pour l'eau quant aux coûts liés à l'assainissement, au transport et à la distribution. Alors cela m'amène à poser une question. L'eau, un bien, une marchandise? C'est une piste de réflexion. Alors malgré les velléités libérales, cela reste un bien majoritairement public. On le voit au niveau des nations, l'eau est très rarement prioritaire dans les arbitrages politiques. Les médias en parlent assez peu. Sans mobilisation citoyenne, l'Union européenne n'aurait d'ailleurs pas exclu l'eau du processus de libéralisation. Et on se rend compte que préserver ce bien vital des intérêts commerciaux reste un combat actuel, permanent et crucial. Et on voit aussi qu'une faible partie du marché de l'eau, et aussi en France, reste privatisée. La plupart des eaux douces de la planète sont encore gérés, et c'est heureux, par des instances publiques. Alors avec l'eau, nous entrons dans un cas très particulier. L'offre et la demande ne sont pas définies de la même manière que pour des biens de consommation dits classiques. La demande en eau est surtout déterminée par le niveau de développement économique et technologique atteint ou à atteindre dans une société, ainsi que par son niveau démographique. Tandis que l'offre de la ressource est un ensemble conjuguant quantité, donc le stock initial, ses flux, et qualité, avec ses difficultés, mon collègue l'a dit, ou facilité d'accès. Alors, ça nous amène aussi à penser que l'accès à l'eau, et je parle bien d'accès à l'eau, est aussi un creuset des inégalités mondiales. Le modèle marchand de l'accès à l'eau potable s'est diffusé au niveau mondial, laissant de côté les populations les plus démunies et les plus pauvres. Un exemple qui est terrifiant, au Ghana, les redevances de l'eau ont augmenté d'au moins 95% et pourraient monter de près à 300%, le FMI et la Banque mondiale exigeant un alignement au prix du marché. Alors, une telle approche laisse de côté la nature même de l'eau, ainsi que les questions environnementales et sociales, et devient facteur d'exclusion pour une partie de notre ou des populations. Alors, il y a tout de même des exceptions, peu. Je vais en citer deux. Elles sont tellement minimes que je me suis senti obligé d'en parler. Le Canada et l'Irlande, où l'eau est financée directement par l'impôt, et donc, d'une certaine manière, l'eau bénéficie d'un accès libre pour tous les ménages. Alors, pour autant, ce n'est pas un service gratuit, rien ne l'est, hein. C'est financé et payé par l'impôt. Mais là, on peut voir que dans ces pays, il y a une véritable publique nationale, un service public national de l'eau. Ce n'est pas du tout le cas en France, c'est fractionné par intercommunalité. Donc, on a des disparités d'accès à l'eau par rapport au prix. En Irlande, ce n'est pas le cas. Et puis, pour mémoire, si vous vous rappelez, hein, la presse internationale en avait parlé beaucoup à l'époque. En 2014, les Irlandais ont manifesté pour s'opposer à la tentative du gouvernement de facturer l'eau au robinet. Donc, il y a aussi des velléités au niveau des gouvernements de changer des politiques plutôt vertueuses.
Si je peux juste intervenir là-dessus, c'est sur pression justement de l'Union européenne, ouais, suite à la crise de 2008 justement.
On voulait libéraliser les services publics en Grèce, alors ils ont tout explosé.
C'est
mais...
ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que l'Union européenne n'est pas totalement...
Ils ne sont pas clairs.
Voilà, dans le cadre... Pardon.
Dans le cadre des plans de redressement, parce que c'était pareil en Grèce, l'Union européenne a forcé à la privatisation au contraire.
Pour rajouter un élément, alors c'est pas que vertueux parce que c'est aussi les pays qui consomment le plus d'eau par habitant parce qu'effectivement c'est gratuit donc ils ont tendance à se moquer un peu de l'usage de leur eau.
Voilà, je parlais de vertu par rapport à l'accès.
Tout à fait.
Non, mais j'étais dans le thème de l'accès à l'eau. Après on pourra débattre sur cette question. Mais l'Union européenne, on verra sur un point de vue juridique sur la fin de mon intervention. Nous n'avons pas le même rapport aux services publics et aux biens publics, à ces ressources-là, en France, et avec les visions de l'Union européenne. Alors, pour poursuivre et conclure cette partie-là, on voit que les intérêts économiques, dans une économie de marché, apparaissent comme légitimes, mais ne sont pas, et à mon sens, ne sont pas du tout en adéquation avec l'intérêt général. Alors, pourtant, il y a des arguments fréquemment invoqués en faveur de la transformation de l'eau en marchandise. Ce sont les mêmes que ceux utilisés à la commercialisation de l'ensemble des biens consommables. Il suffit d'allumer les médias, la télé, je dirais, c'est assez présent. Alors, un des premiers arguments, le marché serait le lieu propice à la distribution optimale des ressources matérielles et naturelles et à la répartition des richesses. Quand même. Deuxième argument, la privatisation de l'eau serait donc le meilleur moyen d'éviter les gaspillages. On y arrive. Et puis, pour finir, le coût de l'eau serait évalué à sa juste valeur. Alors, ça c'est très intéressant, à sa juste valeur, vous allez comprendre pourquoi. Ceci incluant les coûts de transport et de recyclage. Le prix de l'eau potable, il faut le savoir, en France, est faible, voire très faible. Et il suffit de voir le rapport qu'on a à notre usage domestique avec l'eau potable. Citer trois exemples, notamment en milieu urbain. Vous avez des plantes, un petit jardin, deux, trois tomates, vous sortez le... Vous ouvrez le robinet, vous arrosez le jardin, c'est de l'eau potable. D'une façon quotidienne, nous allons tous aux toilettes, tirer la chasse d'eau, il y a 4 ou 6 litres d'eau qui partent dans le réseau d'assainissement. Là encore, c'est de l'eau potable. Partant en vacances ou pas, on a la voiture un peu sale, on sort le jet, on nettoie la voiture. Là encore, c'est de l'eau potable. Donc on a un rapport avec l'eau potable en usage domestique. Je dirais, une partie de la population, la seule réticence qu'elle a avec cette eau potable, c'est de la consommer en tant que denrée alimentaire. On lui trouve un goût pas terrible, pas très bon. Et j'arrive, je voulais faire une parenthèse, qui est la consommation de l'eau potable au robinet. Alors, l'usage de l'eau domestique est quotidien dans l'ensemble des foyers. Ça a été dit avec l'histoire de l'eau. Il est simple, très accessible, techniquement et économiquement. Il se fait d'abord à domicile et sa consommation s'effectue en amont de sa facturation. Je m'explique. Je vais prendre une denrée, je vais y revenir plusieurs fois avec cet exemple, que nous très consommé en France, le pain. Vous achetez une baguette de pain, bon déjà, vous vous déplacez, vous allez à la boulangerie, c'est normal. Vous achetez votre pain, vous le consommez. Avec l'eau potable, tout est inversé. L'eau est déjà chez vous. La baguette de pain, vous n'appuyez pas sur un bouton, elle n'arrive pas au milieu de votre salon. L'eau potable, elle est chez vous. Vous avez un réflexe, on ouvre le robinet, on la consomme et la facturation arrive 6 mois, 1 an après. Et en plus, nous assistons à une persistante paradoxale de la consommation de l'eau en bouteille. Ça, c'est très intéressant. Si la majorité des usagers en France consomment de l'eau au robinet, une certaine habitude de consommation de l'eau en bouteille demeure, notamment à l'extérieur du domicile. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai juste à tendre la main. Alors, j'aurais pu appeler Mendès France en disant... Bon, on met des carafes Grand Poitiers avec le logo, c'est sympa, l'élu va être content, on va pouvoir avoir des propos, on ne va pas être embêté. En rédigeant mon intervention, je n'ai pas appelé Mendès France, je savais que j'allais trouver ce genre de... Bon, ce n'est pas pour piéger les collègues de Mendès France, mais c'est pour bien refléter cet usage qu'on a là. Alors, elle est, attention, hein, elle est aussi historique hein, par rapport au cure thermale. Il y a tout un... Ce n'est pas mon propos, mais... Il y a vraiment toute une histoire avec l'eau, j'allais dire, individualisée presque. Hein. Et puis, il faut savoir qu'avant-guerre et même après-guerre, l'ensemble des foyers n'était pas raccordé à l'eau potable. Donc, on allait acheter de l'eau comme on allait acheter sa baguette. Hein. Ça a été dit précédemment. Donc, c'est des choses qui demeurent. Alors, c'est très polluant, le contenant. C'est très onéreux. Et ça pose des problèmes et la communication fait le reste. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, on buvait 1 litre d'eau d'une certaine marque et on maigrissait, buvait éliminé, c'est magique quoi. Donc, on est aussi un peu dans la fontaine de jouvence. Une autre pub, je me rappelle, des nouveau-nés sautent dans une piscine, alors de façon instinctive se mettent à nager, hein, ils se noient pas, c'est super. Puis ils vont grandir, alors, en plus ils sont tous blancs et blonds, c'était fabuleux. Hein. Bon. Donc, on a ce problème avec de l'eau en bouteille. Et pour information, il faut savoir que l'eau en bouteille est 100 fois moins contrôlée que l'eau au robinet, 100 fois moins, avec des normes différentes. Si un jour vous avez l'occasion d'échanger avec des techniciens ou des ingénieurs de l'Agence régionale de santé, ils peuvent vous faire un discours entre l'eau consommable et l'eau potable. C'est très intéressant. Et 3/4 des marques en bouteille sont consommables, mais pas potables. Et s'il y avait la même exigence que l'eau au robinet, elle serait retirée de la vente. Et puis son prix, l'eau en bouteille est 100 fois plus élevé que l'eau au robinet. Alors je reprends toujours mon exemple de baguette. C'est-à-dire qu'on serait tous d'accord pour aller dans une boulangerie, on paye notre baguette 300 euros, ça choque personne. Donc voilà, on est dans ce schéma. Et pourquoi c'est accepté? Parce que l'eau potable est très peu chère. Alors cela nous amène à penser sur une question beaucoup plus juridique, le droit à l'eau et le droit de l'eau. Alors l'eau potable est la seule ressource naturelle dans l'Union européenne qui doit être vendue à un prix dit abordable, mais sans plus de précision, abordable. Pour aller plus loin, il y a une directive cadre sur l'eau qui date de 2000 de l'Union européenne, adoptée donc par l'Union, qui dit, de point ouvrez les guillemets, je cite, « L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres ». Nous débattons depuis ce matin pour savoir si c'est un bien comme les autres. À l'Union européenne, le débat, c'est est-ce que c'est un bien marchand comme les autres. Donc on est dans une autre strate. Donc c'est acquis que c'est un bien marchand. Maintenant, est-ce qu'on doit le différencier? Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, en France, pour noter la différence, l'eau bénéficie d'un statut différent, ça a été dit, des autres marchandises. Dans les villes, on peut se servir de l'eau potable gratuitement aux bornes fontaines quand elles existent encore. Dans les campagnes, chacun peut puiser l'eau des rivières pour sa consommation personnelle. Consommation, ce n'est pas forcément ingérer de l'eau, c'est sa consommation personnelle. Et puis, aucun autre bien marchand ne jouit d'un traitement semblable. Ni le blé, je reviens, ni le pain pour se nourrir, ni le bois pour se chauffer. Alors, que nous dit la législation française à ce sujet? Alors, en droit français, l'eau potable joue aussi d'un régime spécial, puisque la loi instaure le droit à une aide pour la payer via les fonds de solidarité logement, c'est le même principe que pour l'énergie, et interdit, ça c'est très important, et interdit l'arrêt de la fourniture d'eau à des usagers démunis qui sont dans l'incapacité de la payer. Et c'est assez récent. D'ailleurs, chose intéressante, le Conseil constitutionnel a validé en 2015 l'interdiction totale des coupures d'eau instaurées par la loi Brottes, qui, elle, est en date du 15 avril 2013. Je cite l'extrait de l'article. Le 29 mai 2015, la protection constitutionnelle, on parle bien de protection constitutionnelle, notifie l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales en cas d'impayé, consacrant ainsi le caractère essentiel que représente l'accès à l'eau pour toute personne. Alors, si vous avez suivi un peu les médias, il y a aussi quelques délégataires privés qui se sont amusés après la loi Brottes d'avoir coupé l'eau. Ils ont été condamnés, ils ne sont pas très durs à citer, ils ne sont que trois gros. Hein. Je crois que la SOR est arrivée en tête hein, dans les condamnations. Je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé, j'ai réflexe comme ça. Mais c'est important sur cet accès à l'eau. Donc on voit bien que l'eau bénéficie d'un droit spécifique. Donc on peut s'interroger, et c'est le débat d'aujourd'hui, de sa nature de bien comme les autres. Alors en conclusion, l'eau est-il un bien, et moi j'ai envie d'aller plus loin, ou un patrimoine? C'est pas tout à fait la même notion dans le droit, c'est pas tout à fait la même chose. La semaine dernière, j'étais à la faculté de droit de Poitiers, on avait un débat sur, alors ça concernait l'eau, mais sur un autre sujet, sur les réserves de substitution. C'est toujours très passionné, passionnant comme sujet. Il y avait une historienne du droit brillante qui a fait une intervention très intéressante justement sur l'histoire du droit de l'eau. Et aborder cette notion de patrimoine, hein, c'est un héritage du droit romain. Alors patrimoine, père, mais la notion de patrimoine nous indique qu'il y a comme ça un legs de génération en génération. Hein, c'est une notion d'héritage, on est au-delà du bien classique. Alors l'eau en tant que patrimoine universel de l'humanité et besoin vital à la survie de l'ensemble des espèces vivantes ne peut pas être traité comme une marchandise, mais comme un bien commun de l'humanité, et là, conformément au droit international en vigueur existant. Si l'accès à l'eau, on l'a dit, est devenu un droit, c'est parce qu'il est très nettement différencié des autres biens de consommation. Il est une denrée alimentaire vitale et, à mon sens, reste à lui conférer des droits universels protecteurs qu'il préserve, un, d'intérêt économique privé et qui permettent de niveler les inégalités sociales, économiques et géographiques d'accès. Je vous remercie.
Donc, je vais vous présenter une démarche qu'il y a eu dans le département, qui date depuis 4 ans, une démarche collective sur l'eau, qui a été initiée par le département de la Vienne donc dans les années 2012, et qui a été menée en collaboration étroite avec notamment l'État, et puis, je dirais, un certain nombre d'acteurs. Alors, répondre à la question l'eau, un bien comme un autre, je ne pense pas que ça soit un bien comme un autre. Vous allez voir qu'on a au niveau de l'eau une question importante, c'est on a effectivement une ressource abondante, mais on a une dégradation de la qualité de l'eau qui notamment dans le département, est inquiétante. Et donc aujourd'hui, on a multiples usages. Si bien que la question qui s'est posée et qui se pose encore aujourd'hui, c'est que si on n'y fait pas attention, on risque de ne pas pouvoir continuer à l'utiliser. Du moins, il y a des usages qui risquent d'être mis en difficulté. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il faut que... Enfin, cette question ne peut pas être résolue simplement par un ou deux acteurs, mais bien par l'ensemble des acteurs. Et je rejoins aussi les réflexions des personnes précédentes. C'est bien aussi, au consommateur aussi, qui revient aussi le droit d'intervenir pour qu'on puisse mieux gérer cette ressource qui est importante. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats du schéma de l'eau parce qu'on y passerait une demi-journée facile. Je vais essayer plutôt de vous présenter la démarche collective qui me semble très intéressante, qui a permis de faire un état des lieux de la ressource, parce que si on veut travailler sur des actions, il faut déjà que l'ensemble des acteurs soient bien compris l'enjeu, soient d'accord sur un état des lieux, pour ensuite qu'on puisse construire ensemble des solutions, qu'elles soient acceptées, pour ensuite les mettre en œuvre. Et là, ça demande de la concertation et de l'acceptation. Et surtout une mobilisation de l'ensemble des acteurs, et notamment une mobilisation politique. Donc, j'avais complètement oublié dans ma première version, c'était de vous présenter rapidement le département de la Vienne. Je ne savais pas si tout le monde était vraiment du département. Donc c'est un département qui est à dominante rurale et dynamique. À peu près 280 communes, 430 000 habitants. On a les deux tiers des terres qui sont agricoles. On a à peu près 5100 exploitations agricoles. Donc c'est quand même quelque chose d'important dans l'économie. On a un contexte économique et agricole difficile. On a d'autre part un certain nombre, un dynamisme certain et une forte vitalité économique. On a un axe notamment au Poitiers-Châtellerault, où là on se concentre plus de la moitié de la population et les principales industries. On a certains projets structurants tels que le Futuroscope, Center Park récemment. Et puis des activités liées à l'eau, nombreuses, évidemment la pêche, on a d'autres, on fait du canoë, la thalassothérapie sur la roche posée, le lac de Saint-Cyr pour ceux qui connaissent juste à côté. D'autre part, on a donc un potentiel en matière de ressources en eau qui est intéressant, plus de 4400 km de rivières, on a 5 bassins versants que vous pouvez voir sur la carte, avec le Clain, bon là on est sur le bassin versant du Clain où il y a Poitiers, la Vienne, la Creuse, un bout de la Charente et puis le Touet au nord-ouest. On a près de 500 km² de milieux patrimoniaux, je dirais à dominante humide, avec des espaces naturels sensibles, des sites qui sont gérés par le Conservatoire régional des espaces naturels. On a bien sûr des sites Natura 2000, on a la réserve du Pinail, au nord de Poitiers, etc. Et puis on a une vingtaine de nappes d'eau souterraines. Au niveau de l'enjeu, quand on a commencé, pourquoi un schéma départemental de l'eau ? Parce que l'eau est un enjeu environnemental majeur et une composante essentielle de l'aménagement du territoire. Bon, le département a aussi cette compétence de l'aménagement du territoire et on sait bien que si on veut développer un territoire, l'eau est quand même un élément important. L'accès à l'eau potable, forcément. L'accès aussi à un traitement d'eau usée. Hein. Et puis aussi par rapport aussi au cadre de vie, parce que je pense que les personnes aiment bien vivre dans un cadre de vie, riche et peu dégradé. Donc on peut attirer aussi des cadres, des personnes pour travailler quand le cadre de vie est bon. Donc il y a aussi cet aspect à prendre en considération. Je ne vous ai pas présenté l'état des lieux, mais on a un département qui aujourd'hui, sur les deux tiers de son territoire, où on est en déséquilibre entre le besoin et la ressource. On a un territoire où les trois quarts du département sont en zone vulnérable, c'est-à-dire par rapport aux nitrates. On est un territoire où on est en zone sensible aux phosphates. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments qui fait que la question de l'eau pour la pérennisation des usages est importante. Donc le département, le conseil général à l'époque, qui s'appelle conseil départemental, a délibéré en 2012 en disant « Chaque habitant doit avoir un accès à une eau potable de bonne qualité, un système d'assainissement adapté et un milieu naturel préservé et de qualité. » C'est le point de départ un peu de cette aventure. Et donc, dès 2013, le département a décidé de faire ce schéma qui sera copiloté avec l'État. C'est très important puisque là, on a un binôme important sur un territoire administratif, parce qu'on a eu ces réflexions en disant mais pourquoi vous occupez un peu de l'histoire de l'eau et enfin de l'eau en général. Bon, les bassins versants ne s'arrêtent pas au contour du département. Mais le département existe. C'est un lieu où il y a des arrêtés préfectoraux. Il y a des politiques particulières, politiques de chaque des EPCI comme Grand Poitiers. Hein. Et donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se règlent non pas par bassin versant, mais par cette approche départementale. Donc l'idée, c'était d'avoir une image de l'eau sur le département pour les élus, mais aussi pour l'ensemble des acteurs, de façon à ce qu'on puisse expliquer aussi que sur certains territoires, on devra faire des actions prioritaires, parce que je rappelle aussi qu'on est dans des budgets contraints. On a parlé du coût de l'eau, mais je dirais tous les budgets sont contraints pour tout le monde, aussi bien pour le particulier qui a sa bourse, qui doit gérer, mais aussi bien pour les grandes instances ou les comités de communes ou les départements. Et donc, il va falloir faire des choix. Et pour expliquer les choix, il faut être capable d'accepter qu'il y a des territoires sur lesquels il y a des enjeux plus important, malheureusement, parce qu'on a des cas de dégradation de la qualité plus important. Donc, démarche novatrice, c'est-à-dire que l'idée, c'était de traiter de l'ensemble du cycle de l'eau. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul département qui a lancé cette vaste démarche sur le grand cycle de l'eau, c'est en Seine-Normandie. Sinon, les départements ont l'habitude de faire des schémas départementaux de l'eau, d'abord par l'eau potable, ensuite ils font l'assainissement, ensuite ils font les milieux aquatiques, mais jamais dans l'idée de les lier. Et là, c'était la volonté, et notamment d'y associer une partie usage et une partie politique publique, parce que je crois que c'est important d'avoir cette vision. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie commune et partagée à l'horizon des 10 ans. Donc c'est déjà aussi une idée d'avoir cette planification et cette vision de ce qu'on doit faire collectivement. L'idée aussi de cette co-construction est importante et bien sûr d'y associer tous les acteurs de l'eau. Grosso modo, au moins une soixantaine d'organismes ont participé à peu près à cette instance, ce qui représente grosso modo plus de 150 personnes qui ont travaillé sur 4 ans. Donc c'est quand même très important. Donc ce processus, en fait, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est d'avoir cette vision partagée des enjeux, d'une stratégie et évidemment des solutions envisagées. Ce SDE n'a pas de portée réglementaire, donc c'est quelque chose qui se rajoute à la réglementation, c'était pas l'idée. Mais c'est simplement une feuille de route qu'on a souhaité commune et partagée pour qu'on puisse ensuite pouvoir travailler. Elle ne se substitue pas à d'autres outils qui existent, parce qu'il en existe beaucoup dans l'eau. On a une multiplication d'acteurs, beaucoup d'acteurs qui s'entrecroisent, qui se chevauchent avec projets tous intéressants, hein, mais qui des fois ne sont pas forcément menés de manière cohérente. Donc on s'intègre dedans, donc on intègre les stratégies. Vous avez le SDAGE, hein, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Vous avez différents programmes de mesures pour mettre en œuvre ce SDAGE. Vous avez les SAGE, pour ceux qui connaissent aussi, donc les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont sur des bassins versants, plus petits. Donc tout ça, c'est intégré dedans. Donc l'idée, c'était de décloisonner les différentes thématiques de l'eau et les politiques de l'eau. Alors moi, je dis plutôt des politiques liées à l'eau, parce que je pense que les activités économiques ou la vie de tous les jours, on a besoin de l'eau. Donc il n'y a pas que la politique de l'eau, il y a la politique qui sera liée à l'eau, où on sait qu'on aura un impact sur l'eau. Et surtout de favoriser cette cohérence entre des actions qui sont faites sur l'alimentation en eau potable, les milieux aquatiques et l'assainissement. Donc c'est bien d'essayer de concilier tous ces enjeux qui sont environnementaux, qui sont aussi par rapport à la santé publique, on en a parlé depuis toute la matinée, mais aussi avec derrière un enjeu socio-économique, parce que malgré tout, derrière, vous avez des usages, et que l'idée, c'est qu'ils puissent continuer à fonctionner, mais en étant vigilant sur ce que peut avoir la conséquence de ces usages sur les autres. Donc pour pouvoir mettre en place cette démarche, il faut une mobilisation politique collective et qui nécessite ce que j'ai dit en préambule, c'est que tout le monde ait bien compris les enjeux et tout ça dans une bonne concertation, une concertation la plus élargie possible. Pour ce faire, on a imaginé trois niveaux de gouvernance, un comité de pilotage qui était constitué de l'État, du département, de l'ARS, de l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne, qui a été aussi un partenariat, notamment dans le financement, mais aussi des fonds, je ne l'ai pas dit, mais des fonds aussi européens. Ensuite, il y avait un comité technique restreint, où là, on avait les services de l'État, le département, l'ARS, les représentants des différents sages. Donc, on a des animateurs, en fait, sur certains bassins versants. On les a mis dedans, c'était important, puisqu'ils mènent une politique, ils ont une vision de l'ensemble des bassins versants, donc c'était important qu'ils soient présents. Et ensuite, on a cinq comités de pilotage, comités techniques, excusez-moi, où là, on était revenu quand même à des thèmes comme l'eau potable, l'assainissement, milieu aquatique, et des thématiques un peu plus transversales, usage de l'eau et politique publique. Et enfin, on avait la possibilité de mettre en œuvre des ateliers d'échange et de débat sur des thèmes plus, je dirais, plus précis. On en a fait notamment sur les pollutions diffuses, qui a été, on en a fait deux ou trois, et où là, on a vu d'ailleurs l'intérêt de ces ateliers, parce que finalement, la plupart du temps, quand on a des réunions pluridisciplinaires, on est souvent sur des territoires restreints, souvent dans des moments plutôt tendus, parce qu'on a une problématique très importante, donc avec des discours et des personnes sur la défensive, des fois c'est compliqué de s'exprimer. Là, on était un petit peu... On était sur tout le département, donc un territoire plus grand, où les acteurs locaux étaient plus libres, parce qu'on n'était pas sur leur territoire, mais sur l'ensemble du territoire, et pas dans un moment où il y avait une problématique vraiment à traiter. Et ça, ça a été important. Et je pense que si on doit garder cette idée du CSDE, c'est ça. C'est-à-dire de mettre ensemble les gens, pas forcément dans des moments où c'est tendu, parce que là, c'est compliqué de faire de la concertation. Voilà. Donc, grosso modo, vous pouvez voir 77 organismes au départ, mais après, vous avez eu la loi NOTRe qui est passée par là. Donc, on a pas mal d'organismes qui ont fusionné. Donc, j'aurais une soixantaine. Voilà. Donc... On a été aussi assisté d'un groupement de bureaux d'études. On a cinq bureaux d'études qui nous ont apporté leur soutien. Je dirais que par rapport à leur intervention, elle a été très, très appréciée au départ dans l'état des lieux. Par contre, lorsqu'on a dû mettre en place la partie, je dirais, stratégie, et là, on a dû travailler, je dirais, plutôt seul. Entre les organismes, parce que la vision stratégique reste quand même doit intégrer le contexte local et la connaissance du territoire, et ça, ce sont les acteurs locaux qui peuvent la définir, et c'est pas forcément, et là on a vraiment eu des difficultés, les bureaux d'études n'ont pas réussi en fait à nous apporter vraiment beaucoup d'aide. Voilà. Donc simplement rapidement les étapes. 2013, la décision de le lancer en septembre, avec bien sûr le principe qu'on a évoqué tout à l'heure. On a démarré en 2014, puisqu'il a fait un marché public pour trouver donc les différents les groupements pour nous aider au niveau des bureaux d'études. La validation a été très longue, hein, 2 ans pour l'état des lieux de diagnostic, mais finalement, avec le recul, c'est important. C'est important ce temps. Je rappelle qu'on a travaillé sur 3 thématiques en même temps. On a validé on a fait une phase 2 qui définissait en fait les scénarios, identifier les priorités d'action. Cette phase a été primordiale puisqu'on a évalué financièrement cette phase en disant voilà, on va partir sur le principe, c'est l'objectif idéal, dérive des gaffes sur l'eau, hein, c'est-à-dire qu'on respecte le bon état écologique. Voilà, on va partir sur le fait que on se donne pas de limite et on évalue ce que ça pourrait coûter en termes d'action. Et ensuite, on a eu une troisième phase qui est le programme d'action, où là, on est revenu vers les collectivités, notamment pour l'eau potable et l'assainissement, parce que ce sont des collectivités pour lesquelles, je dirais, ils avaient une vision plus précise de leur capacité à pouvoir investir dans les 10 prochaines années, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour les milieux aquatiques, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est revenu vers les producteurs d'eau potable et ceux qui ont la compétence assainissement. Et à partir de là, on a essayé de, on a réduit la voilure pour que ce soit un schéma qui soit réaliste. Voilà. Et la mise en œuvre, elle débute aujourd'hui. Donc, l'élaboration du schéma, finalement, beaucoup d'échanges. On a 4 documents, 3 documents. Alors, on n'est pas quand même resté sur 3 documents classiques. Donc, un schéma d'alimentation en eau potable, un schéma d'assainissement, un schéma milieu aquatique. Et on en a fait un qui en fait transversal sur le grand cycle de l'eau, à partir des éléments de ces 3 schémas. La mise en œuvre a été longue. On a dû mettre en place une plateforme d'échange de données. On a fait des enquêtes, des entretiens individuels. Il y a eu à peu près 83 instances de travail entre les bureaux entre le COPI, l'écotech, les comités thématiques. Des consultations écrites, on en a eu 4, c'est-à-dire qu'on donnait les documents aux différents acteurs pour qu'ils puissent nous transmettre leurs remarques, prise en compte, restitution. Je vais vous parler maintenant rapidement de ce programme, donc qui est de 2018 à 2027. Donc, une première vision à l'échelle départementale. Il y a 29 fiches actions thématiques, il y a des fiches transversales que je vous parlerai un petit peu plus tard. Grosso modo, le coût, plus de 555 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Si on regarde par rapport à la population, de manière générale, on serait à peu près à 130 euros par an par habitant. C'est une mesure. Une mesure, c'est bien de mesurer par rapport à l'effort que pourrait avoir la population. C'est juste une mesure. Si on regarde par bassin versant, on voit qu'il y a une inégalité. Et ça, c'est aussi la solidarité. Je pense que la solidarité entre les territoires, on en parle, mais je crois que c'est important même pour l'eau. On regarde que suivant les bassins, on peut avoir 114 euros par habitant, par exemple sur le Clain, parce que c'est un bassin qui est très peuplé, notamment, et 242, donc on va du simple au double par rapport aux problématiques que l'on peut rencontrer sur ces bassins versants. Et on a reporté 225 millions d'euros par rapport au retour qu'on a pu faire en disant les capacités des collectivités à pouvoir mettre en place ces actions. Quand on regarde le diagramme, là, on les a répartis par les grands, ce que j'appelle les objectifs grand cycle de l'eau. On en a 4. Le premier objectif, c'est reconquérir et préserver la qualité de l'eau. Je vous l'ai dit en préambule, on a vraiment cette problématique de dégradation de la qualité de l'eau. Donc l'idée, c'est bien de la reconquérir et de la préserver. Le deuxième objectif, c'est assurer l'équilibre entre les besoins et les ressources naturelles. Je vous l'avais dit aussi, il est apparu comme étant essentiel. Mais il y a encore quelque chose qui est important, on l'a dit tout à l'heure, notamment les personnes de l'eau de Paris et puis M. Lucot, c'est que finalement, on est obligé quand même toujours de garantir en priorité la santé publique et de distribuer tous les jours de l'eau potable, entre autres, et bien sûr, pérenniser les usages. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, le dernier qui n'est pas non plus à oublier, c'est bien préserver et restaurer les milieux aquatiques, puisqu'ils ont un rôle très important, notamment pour la qualité de l'eau et la ressource, de manière générale. Juste pour vous dire que on a 29, on revoit les, je dirais, les grands enjeux du grand cycle de l'eau. Et ensuite, vous avez, vous voyez apparaître là les multiples, les 29 actions. Les couleurs montrent simplement que si je veux reconquérir la qualité et préserver la qualité de l'eau, je vais être obligé d'intervenir sur trois thématiques. Il faudra le faire de concert parce que si on peut travailler que sur une, mais on n'arrivera pas à avoir l'objectif. Donc il faut bien travailler sur l'ensemble des thématiques. Ça montre l'important de combiner les actions et d'élargir un petit peu son champ de vision et pas mettre des œillères et parler que de l'eau potable. Mais ben, il y a des actions au milieu aquatique qui peuvent apporter effectivement des améliorations pour l'eau potable. Et l'assainissement en est aussi un autre volet. L'approche par bassin versant, c'est simplement, on a donc, à chaque fois que l'on a fait un schéma, on est tout de suite revenu au bassin versant, parce que c'est important, ne serait-ce que par la solidarité de bassin. Le fonctionnement, c'est bien par bassin versant, donc il faut qu'on revienne sur cette unité, même si nous, la vision est un peu tronquée, parce que le département, je l'ai dit, n'épouse pas les limites des bassins versants, mais ça fait rien, on a cette obligation de revenir sur cette vision bassin versant. Et là, vous voyez les répartitions des coûts. Vous voyez la part, on voit bien le Clain qui est le bassin le plus peuplé, c'est celui aussi qui est le plus dégradé, il faut le dire, où les problématiques sont les plus importantes, c'est l'ouest du département. On voit que le coût est au-delà de la moitié. Hein. Par contre, on regarde que le coût à l'habitant est plus faible parce qu'effectivement, c'est le plus peuplé. Contrairement à d'autres bassins, comme celui de la Creuse, où on a une petite où c'est le plus élevé en termes de coût par habitant. Et quand on regarde par rapport aux différentes thématiques, bon alors là, on n'a pas fait exprès, on a un tiers pour chaque, donc un coût de 143 millions pour l'eau potable, la même chose pour l'assainissement, et la même chose à peu près pour les milieux aquatiques. Voilà. Juste quelques mots sur chaque bassin versant, vous avez une carte qui illustrait ce que je vous ai dit aujourd'hui. Nous avons essayé de définir aussi dans des priorités d'action, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'argent ne coule pas de source, du coup, il faut aller le chercher. Et donc, il faut se donner des priorités. Donc, vous avez, voyez, tout le bassin à l'ouest, avec le Clain ici, où on a cette problématique nitrate, notamment, qui vient ici, est illustrée ici, avec les étoiles et les triangles, ce sont les principaux, je dirais, captages prioritaires qui ont été mis en avant par le SDAGE, mais aussi par le schéma de l'eau, puisqu'on en a mis quelques-uns supplémentaires. Eh bien, la priorité, évidemment, pour l'eau potable, la priorité une, c'est reconquérir et prioriser, enfin, en priorité, cette ressource d'eau potable. Parce que l'argent qu'on va mettre, qui n'est d'ailleurs, quand on regarde le coût que l'on prévoit pour l'action de prévention, il n'est pas élevé par rapport à ce que l'on paye pour garantir la santé publique et ce qu'on risque de payer plus tard. Hein. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que pour être dans la prévention, il faut que l'ensemble des acteurs et les usagers de l'eau se mobilisent pour pouvoir préserver cette ressource. Maintenir la solidarité territoriale, on l'a vu parce qu'on a vraiment les difficultés, enfin les différences entre les différents bassins. Milieu aquatique, c'est la même chose. On a aussi reconquérir la qualité de l'eau, évidemment. Alors, dans la Vienne, on a 80% de la ressource qui est des eaux souterraines. Et on a trois prises d'eau, un sur la Vienne et deux sur la, enfin un sur le Clain et deux sur la Vienne. Mais on est vraiment plus sur des captages souterrains, sachant que quand même sur ces captages souterrains, on en a pas mal qui sont en nappe d'accompagnement. Donc ça veut dire que la qualité de l'eau de surface est importante et donc est en lien avec l'activité qu'on a, je dirais, en surface. Voilà. Donc, on revient sur cette priorité de qualité de l'eau. Et l'idée aussi, c'est mettre en œuvre, essayer aussi d'accompagner les développements de stratégies de bassin, ça c'est important, et de créer des liens entre le milieu aquatique, l'eau potable et l'assainissement qui ne sont pas forcément toujours aussi évidents que ça. Pour l'assainissement, ce n'est pas la problématique prioritaire du département. Il y a eu un gros effort qui a été fait par les collectivités comme Grand Poitiers ou d'autres communes ou d'autres syndicats. Je dirais qu'on a investi beaucoup d'argent, notamment dans les années 2000 et 2010. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la problématique de l'assainissement n'est pas la... Même si on voit que c'est élevé en termes de coûts, mais ce n'est pas l'enjeu prioritaire à mon goût. Techniquement, ce n'est pas l'enjeu prioritaire. Par contre, il faut être vigilant. parce qu'il ne faut pas baisser la garde, parce qu'on le voit par rapport aux difficultés qu'on peut avoir sur l'impact de l'assainissement quand ça fonctionne mal, et surtout l'impact sur le réseau d'assainissement où là on a du travail à faire. Et puis l'autre idée aussi de ce schéma, c'est de dire aujourd'hui arrêtons de vouloir mettre tout en collectif et privilégions l'assainissement non collectif quand on est dans des zones qui sont peu denses, puisque ça aussi ça a un coût pour la collectivité. Et puis améliorer la gestion du patrimoine, parce qu'autant sur l'eau potable on a dans le prix de l'eau une partie qui pour le renouvellement, autant pour l'assainissement ce n'est pas toujours le cas, et là on est un peu plus en retard, et là on peut se poser des questions sur le renouvellement des tuyaux où on est largement au-dessus pour certains de plus de 500 ans. Et encore je pense que je suis alors que pour l'eau potable on est à 100-150 ans, donc voilà. Le grand cycle de l'eau, simplement pour vous dire que comment on a fait ce schéma grand cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on a repris l'ensemble des actions et on les a remis. Alors c'est pas toujours simple, notamment pour l'eau potable, hein, parce que je vous dis qu'on était plutôt sur des captages d'eau souterrains avec des réseaux de distribution qui traversent les bassins versants. Donc, mais on a essayé quand même de reprendre toutes ces actions et de les remettre dans les bassins versants. Donc on a fait une synthèse de chaque pour chaque bassin versant des politiques et des actions. Je vous montre juste un exemple. Voilà. Quand le bassin de la Charente, donc la boucle de la Charente, la Charente traverse au sud-est le département. Donc grosso modo, par exemple, on a un coût de 23 millions qui a été calculé. On a des actions qui sont apparues importantes, c'est reconquête de la qualité de l'eau, visation des pollutions diffuses. On le voit. On voit apparaître par rapport à l'eau potable, et puis préserver et restaurer les milieux aquatiques. Donc on retrouve pour chaque bassin versant ce genre de graphique avec des actions chiffrées. En eau potable, on a été jusqu'à, et en assainissement, à prioriser, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple pour l'assainissement, on a déterminé des systèmes d'assainissement prioritaires. Donc on a utilisé d'ailleurs un modèle de l'agence de l'eau qui nous a permis de dire que si on travaillait sur telle ou telle station, on pouvait regagner une classe de qualité de cours d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi à l'intérieur de chaque schéma priorisé en fonction aussi d'un retour à l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut plus se permettre de mettre de l'argent et de ne pas avoir derrière un retour. Parce qu'il faut l'expliquer derrière aussi aux usagers. Et donc on a aussi priorisé. Et on a une synthèse que, bon, grosso modo, on peut voir, je ne vais pas trop détailler, mais on voit que par rapport au bassin, on a des investissements plus ou moins importants en fonction de nos quatre objectifs principaux du grand cycle de l'eau. Et on retrouve cette même vision par thématique. On voit par exemple que la Charente, c'est l'eau potable. Juste pour vous donner une information, problématique de pesticides, mais surtout de nitrates depuis les années 2000, décision de créer une usine de traitement, de dénitrification, le coût global pour 10 000 habitants, 14 millions d'euros. 10 millions d'euros pour restructurer les réseaux et 4 millions pour le prix d'une usine. Donc voilà où on peut arriver demain, alors pas que dans le département de la Vienne, hein, mais on pourrait en arriver là si on ne met pas en place des actions de prévention sur la dégradation de la qualité de l'eau. Là, pareil, juste pour vous dire qu'on a rebâti aussi l'avance par l'aspect transversal des choses, c'est-à-dire les actions, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure en mettant les actions des différents schémas et de montrer qu'en fait, qu'il faut vraiment avoir une action collective, cohérente, échangée entre les différents producteurs. On a eu une réunion dernièrement, il y a deux semaines, avec les syndicats d'eau, Grand Poitiers, enfin, au Devienne, puisqu'on a un grand syndicat d'eau et d'assainissement et Grand Poitiers, et on a discuté avec des syndicats de rivière, où l'idée c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas échanger entre des programmes d'action, puisqu'on sait que les collectivités comme Grand Poitiers ou au Devienne travaillent sur des priorisations sur 10 ans, par exemple, on va attaquer sur telle ou telle station. Et l'idée c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas avoir cette information, par exemple, par bassin versant, ce qui n'est pas forcément fait par ces syndicats, ou parce que c'est pas l'habitude, et de confronter ça avec des programmes d'action au milieu aquatique, parce que j'ai vu le cas où on a travaillé sur un cours d'eau et quand on a mesuré l'efficacité on s'est dit bon, ça n'a pas si bien marché que ça, mais oui, parce que juste en amont on avait une station qui relarguait des boues et qui a mis en difficulté, je dirais, les travaux qui ont été bien faits, Mais par contre, on ne peut pas valoriser à leur juste valeur. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la cohérence? Et c'est ça l'idée aussi de ce schéma. Mettre en cohérence, mettre autour de la table les différents acteurs de l'eau pour qu'on puisse travailler ensemble et faire, je dirais, des travaux qui ont un coût, mais qui doivent aussi derrière avoir des résultats. Parce que derrière, il va falloir aussi évaluer. Je pense qu'il faut évaluer. On doit évaluer ce que l'on fait. Les 6 actions transversales, c'est quoi? C'est dire comment on peut mettre en place ce schéma. Donc, on a développé, animé les instances. Donc, on a commencé à travailler avec les différents acteurs pour essayer de constituer des groupes de réflexion et d'échange. Échanger les données, déjà. Qu'on puisse échanger les données, ça a été la grande question aussi avec les syndicats de rivière. Comment on peut échanger les données pour s'auto-alimenter et être capable de faire de la programmation de travaux cohérente, construire des stratégies de bassin versant, communiquer, autant sur l'eau potable assainissement, je pense qu'on a depuis de nombreuses années communiqué, donc je dirais que c'est quelque chose qui se fait, c'est compris. Les milieux aquatiques restent encore un domaine où on a encore des problèmes de compréhension sur la continuité écologique. Sur le rôle des zones humides, on dit que elles ont un grand rôle, mais finalement, on ne les protège pas tant que ça. Donc, il y a aussi là des démarches de sensibilisation à faire, aussi bien au niveau des politiques, mais aussi du grand public. Après, il y a apporter un soutien à l'ingénierie à l'échelle départementale, c'est-à-dire qu'on doit être là aussi pour apporter des soutiens, aider les différents acteurs à mettre en place cette politique, mobiliser des financements, parce que c'est aussi quand même important, et puis bien sûr l'animer et suivre les actions, l'évaluer pour qu'on revienne chaque année expliquer ce qu'on a fait, ce qui s'est fait, ce qui n'a pas marché, faire évoluer les choses parce qu'on voit la nouvelle directive sur l'eau potable en projet, on va avoir des nouvelles choses qui arrivent, on a des nouvelles pollutions qui sont prises en compte. On l'a vu nous au cours de notre schéma, on a eu les CVM qui sont apparus, donc ces produits qu'on retrouve dans l'eau potable lorsqu'on a des conduites en PVC qui ont été posées avant les années 80. C'est peut-être pas trop d'actualité pour eau de Paris, je ne sais pas, mais nous en tout cas dans le milieu rural, c'est forcément plus important puisqu'on a des temps de séjour importants, des longs tuyaux. Et des fois, la déprise aussi agricole fait qu'on avait aussi des fois des branchements qui étaient avec des éleveurs, par exemple, qui consommaient beaucoup d'eau. Malheureusement, des éleveurs, des fois, disparaissent. Et donc, cette consommation, elle n'existe plus. Et donc, les tuyaux ne sont plus utilisés. Et donc, on a un problème de temps de séjour. Donc, voilà, on a ces problèmes qui arrivent. Donc, il va falloir aussi le faire évoluer en fonction des problématiques qui vont arriver. La mise en œuvre, elle se calque un peu sur l'élaboration de ce schéma. Donc on a prévu un comité directeur donc qui sera là pour, je dirais, valider les budgets, valider et mobiliser, se mobiliser sur les dossiers. On a un comité technique qui est le même, avec toujours l'idée d'avoir les représentants des sages, parce qu'il y a cette force importante qui ce parlement de l'eau, parce que le sage, il y a la clé, la commission locale de l'eau, c'est un parlement de l'eau, où on a déjà tous les acteurs qui sont présents. Donc de les avoir avec nous, ça nous permet aussi de pouvoir travailler et d'échanger avec eux. Ensuite, la relation avec tous les autres acteurs de l'eau aussi via des ateliers d'échange que l'on constitue en fonction des problématiques qui peuvent venir de notre constat, mais qui peuvent venir aussi des autres acteurs extérieurs. Et puis une cellule d'animation qui est constituée d'une personne du département et de la DDT, donc la Direction départementale des territoires, donc des services de l'État. Les ateliers, par exemple, il y en a un, le premier qu'on doit mettre en place, et on a travaillé sur notre dernière rencontre avec notamment les producteurs d'eau potable et les responsables de l'assainissement, c'est mettre à jour les fiches actions, parce qu'on a un état des lieux qui date de 2012, voire 2014. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été faites depuis, donc il faut qu'on puisse les quantifier et mettre à jour les fiches d'action. On a cet atelier sur la mise en œuvre des stratégies opérationnelles, parce que là, c'est de dire comment on peut travailler avec notamment les syndicats de rivière, les financements, comment on peut arriver. Et puis les pollutions diffuses, où là, il faut qu'on relance rapidement les débats, parce que on a des avancées, on a des programmes ici dans notre région, c'est le programme ressources sur des captages. Je pense que là, il y a des actions qui sont en cours, notamment par rapport aux pollutions d'origine agricole. Il y a du travail, mais je crois qu'il faut encore continuer pour modifier les pratiques, notamment sur ces captages-là, pour permettre de réduire ces pollutions et par la suite préserver ces ressources et éviter derrière des traitements coûteux. Et puis travailler sur la mobilisation et sur la communication. On prévoit de mettre une charte qui devrait être... On va proposer une charte parce que je vous l'ai dit au départ, c'est un préambule. C'est le préambule. Enfin, c'est-à-dire, c'est... Il faut qu'il y ait une mobilisation. Et pour être une mobilisation, on a décidé de mettre une charte que les acteurs pourront, s'ils le souhaitent, signer pour montrer leur engagement. Alors l'engagement, ce n'est pas de dire vous allez mettre 10 millions d'euros dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas ça. L'engagement, c'est de dire quand vous allez faire vos programmes, assurez-vous au moins que vous êtes dans le cadre du schéma. C'est bien, ça fait partie aussi de ces priorités que l'on a construites ensemble, parce qu'on revient sur les mêmes acteurs. Donc c'est soutenir la démarche. Donc c'est l'idée aussi de pouvoir continuer à avoir cette dynamique collective. Donc en conclusion, c'est un programme qui est quand même ambitieux, mais réaliste, je répète, on est revenu vers les différents acteurs pour essayer de voir ensemble si... Parce que faire des... Je dirais, prévoir des actions, les évaluer, on le voit dans pas mal de programmes, et pas arriver à les mettre en œuvre, c'est frustrant. Et je pense qu'il faut des fois faut être ambitieux, mais être réaliste pour qu'on soit capable derrière d'être satisfait aussi de ce qu'on a pu mettre en place. Parce que quand on ne fait que 50% ou 20% de ce qu'on prévoit, c'est dur pour ceux qui travaillent. Et donc, en fait, l'idée, c'est bien de reconquérir la qualité de l'eau. C'est bien prioritaire, et notamment pour l'eau potable. Assurer l'équilibre entre les ressources, je l'ai dit tout à l'heure. Mettre en place des programmes de sensibilisation. Et surtout, accompagner le développement des stratégies de bassin versant. Favoriser les échanges entre les collectivités. Les pollutions diffuses, c'est vraiment une problématique importante sur notre département, notamment sur l'Ouest. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'Est, on risque d'avoir ces mêmes problématiques, puisque la déprise, en fait, la réduction, je dirais, ou la difficulté de l'élevage à rester en place, notamment sur le sud-est du département, fait qu'on a des retournements de prairies. Et derrière, le risque d'avoir aussi la mise en place de production céréalière. Donc derrière, on risque d'avoir peut-être encore... on a peut-être encore la possibilité alors, il ne faut pas freiner, l'activité économique, mais au moins prendre en compte qu'il faut travailler pour ne plus avoir une pression importante sur l'eau, parce que finalement, l'eau, on l'a en grande quantité aujourd'hui, mais elle risque d'être plus difficile à traiter et donc derrière à financer. Et bien sûr, maintenir la solidarité territoriale, parce que je pense que tout le monde n'est pas... on n'est pas égaux. Hein. Je crois que si on n'en est pas conscient, moi, je peux vous le dire, on n'est pas égaux, parce que plus on est éloigné de grandes structures, et plus on peut avoir des difficultés à mettre en place des programmes. Et enfin, juste pour conclure, c'est que par rapport aussi à la mise en œuvre de ce schéma, le département a aussi mis en place une politique de l'eau qui s'est basée sur cette mise en œuvre, donc a mis en place une contribution que l'on peut développer en 4 points. La mobilisation politique. Le département, ça fait plus de 30 ou 40 ans qu'il travaille sur l'eau. Quelquefois, pas forcément, ça n'a pas été forcément formalisé, mais il a pris en... c'est une compétence qu'il n'a pas forcément, mais je pense qu'il l'a pris parce que c'est un aménageur du territoire, c'est de l'aménagement de territoire. Donc il a un rôle historique, il a un rôle de faciliter aussi les projets et d'être un intermédiaire en différents acteurs. Il a un appui financier, puisqu'aujourd'hui, on a mis en place une enveloppe spécialement pour l'eau. Elle existait avant, mais là, on a vraiment voulu marquer le coup. Et cette enveloppe, elle est utilisée en prenant en compte les priorités du schéma départemental de l'eau. Au sein de notre département, on a d'autres compétences. On en a une d'ailleurs sur les espaces naturels sensibles, où là, on va accentuer notre politique là-dessus, notamment sur les zones humides, puisqu'on a la possibilité de pouvoir travailler sur ces zones-là, donc de mettre un petit peu plus de moyens dessus. On a un outil aussi qui s'appelle l'aménagement foncier. Là aussi, on veut travailler notamment avec Grand Poitiers, mais aussi Hauts-de-Vienne, pour faciliter, les échanges de terrain entre des endroits qui seront jugés sensibles dans les études sur les captages d'eau potable, avec des endroits moins sensibles. Essayer de pouvoir échanger des terrains pour des agriculteurs qui souhaiteraient mettre en place des actions qui sont plus protectrices vis-à-vis de l'eau potable. Donc le département a ces outils et il veut justement les mettre en œuvre pour cette partie eau potable.
Je me permets de vous couper, c'est très intéressant et c'est très compliqué. Pour en débattre si vous voulez, c'est... c'est une politique moi, que je trouve très motivante, mais on rencontre sur les territoires un conservatisme qui s'est installé depuis très longtemps.
Oui, le foncier est toujours quelque chose d'assez, d'assez compliqué, mais je pense que aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites sur les captages aujourd'hui, hein, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur les captages, avec le programme ressources. On sait maintenant, en étudiant de manière précise le fonctionnement des nappes, parce que c'est aussi ça l'intérêt, on est capable aujourd'hui de pouvoir trouver, déterminer sur les bassins versants les zones qui sont beaucoup plus sensibles, par exemple, au transfert rapide de l'eau vers les nappes. Et donc, si on pouvait, sur ces zones très sensibles, ou les gouffres, par exemple, mettre en place, faire des échanges de terrain pour qu'on puisse mettre en place des actions plus, enfin, des activités plus, comment dire, plus protectrices de la, par rapport à la qualité d'eau, moins impactantes pour le milieu, eh bien, on y gagnerait. Et cet outil foncier pourrait être un élément parmi d'autres. Hein. Mais pour ça, il faut de l'acceptation, effectivement, des personnes. Et puis, bien sûr, mettre à disposition, comme on le fait depuis pas mal de temps, de l'assistance technique aussi et de l'ingénierie dans le domaine de l'eau. Donc voilà, je conclue là-dessus en disant que pour moi, je n'ai pas répondu forcément à la question, mais de l'eau, un bien comme un autre. Je ne pense pas que ce soit un bien comme un autre. C'est vraiment, ça fait partie de notre patrimoine. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les usagers, tous ceux qui utilisent l'eau, d'ailleurs, on parle d'eau usée, hein, d'eau utilisée qu'on recycle. Eh bien, chacun doit travailler ensemble pour le bien de tous, parce que je pense que c'est un élément qui est le plus surveillé au monde, je pense, hein, et notamment en France. Et finalement, je ne suis pas sûr qu'on mesure les risques aujourd'hui sur la dégradation de cette ressource. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Mais je vous remercie.